Ces événements se déroulent entre midi et 13h.
On va être... Oui, c'est le cinéma standard.
Oui, oui.
Cinéma normal, oui.
Cinéma normal, d'accord. Alors, où c'est que c'est? Alors, entrée, tel truc, émission, samedi, machin truc, machin, bidule. Non, c'est pas ça. C'est pas celui-là. C'est celui-là. Hop.
Cette minute de recherche de jingle vous est présentée par Xavier.
Radio Éphémère présente. Le supplément week-end. Le magazine des cultures geeks. Avec du sport. Ultimatum. Das Creek. Et la participation exceptionnelle de JB. Bonjour et bienvenue à tous. Oula, oh. On règle ces niveaux en direct. On est bonjour et bienvenue. Oui, j'espère que tout le monde va bien. Bonjour du sport.
Bonjour.
Bonjour Thomas.
Bonjour.
Et ça fait plaisir de retrouver ce studio neuf et déjà ruiné d'ailleurs. Merci par les services de la vicinité de la mairie de Toulouse.
Oui, finalement, il n'y a pas trop de dommages.
Non, il a été intégralement renettoyé. Ah, ils ont rechangé la table et tout. Enfin bon, c'est absolument débile. Bref, tout ça pour vous dire que le programme n'était absolument pas celui qui était annoncé samedi dernier. Vous comprenez aisément que suite aux événements qui se sont passés cette semaine, c'était passé il y a 10 ans. Et c'est demain d'ailleurs l'anniversaire des événements du 11 septembre. Et ben voilà, on va en parler en fait en long, en large, en travers justement l'impact qu'ont eu les événements du 11 septembre, c'est-à-dire à la fois les deux avions qui ont été précipités sur World Trade Center, l'avion qui a été précipité sur le Pentagone et celui qui sur lequel les passagers sont rebellés juste à temps et l'avion s'est écrasé en plein milieu de la campagne. Et là aussi aucun survivant. Donc ça fait quand même plus de 4000 morts, plus de 4000 morts, oui en fait. Sur leur impact sur justement les comics, les séries télé, les films, l'impact sur la fiction en général américaine. C'est assez intéressant d'y venir, surtout 10 ans après, et on se rend compte qu'il y a eu une évolution assez surprenante, justement par une étude qui a été sponsorisée en fait par UCLA, c'est-à-dire l'université de Californie du Sud, qui est d'ailleurs une université qui est très très proche à la fois sur le reportage, sur les droits sociaux et sur les droits de l'homme. Donc c'est vraiment intéressant quand même l'étude qu'ils ont faite. On en reparlera tout à l'heure. On a aussi pas mal de choses sur le thème, je veux dire, de la coercition, de l'emploi de la force brute ou encore, je vais dire, de la séquestration. Bref. Aujourd'hui, malheureusement, vous allez voir que dans la fiction, si on oublie les droits de l'homme, ça peut aussi arriver, hein, je vous rassure. Je vous rassure pas du tout, dans le cadre d'une démocratie. Ceci dit, on va quand même commencer par un petit truc un petit peu plus soft hein, quand même pour l'émission. C'est peut-être l'agenda de ce qui se passe. On va commencer ce soir par l'ABC.
Oui,
l'ABC, le programme.
Oui, le cinéma toulousain, l'ABC, qui propose une soirée manga ce soir à 20h avec deux films d'animation japonais en VO sous-titré. Donc il y a One Piece Strong World de Muneisa Sakai, donc c'est la transposition en animation de la série de manga One Piece, et ainsi que Paprika de Satoshi Kon, qui a disparu il y a presque un an maintenant, voilà déjà. Donc les deux films seront projetés à l'ABC, ainsi qu'il y aura aussi un défilé de cosplay par la troupe Chou Cosplay et une exposition de design graphique Made in Japan par Adrien Lecy.
Juste une chose à propos de Satoshi Kon, puisque vous savez que Satoshi Kon, on l'a raconté, donc entre autres qu'il a fait une seule série télé, mais il en était à la pré-production de son film et il était en train d'écrire le scénario. Il s'est employé sur les 3 derniers mois qui lui restaient à vivre à terminer la pré-production. Il se trouve que la crise économique au Japon a eu un impact, je vais dire, un peu malheureux, tout simplement puisque la production risque d'être abandonnée. Donc il y a eu quelques, il y avait 16 000 îlots qui étaient prévus pour le dessin animé. Je crois qu'ils en sont à 8 000 ou 9 000, mais finalement ils mettent entre parenthèses, à ce que j'ai compris.
Oui, bah moi j'ai entendu dire que c'était, enfin j'ai lu sur le net que c'était quasi carrément annulé, hein, que c'était, ils n'arrivaient plus à boucler leur budget et que il y avait, oui, là, à peu près la moitié du film, ou si ce n'est moins, qui avait été faite sur l'ensemble des plans.
Voilà, donc c'est une histoire qui est un petit peu triste, et qui est pas très charmante à dire, mais voilà, bon, c'est comme ça. Surtout pour l'immense talent qu'avait Satoshi Kon. Donc, pour en savoir plus ce soir à l'ABC, je crois qu'en plus, c'est un événement cosplay, un truc comme ça.
Oui, l'événement cosplay, organisé par la troupe Chou Cosplay. Et si vous
et le premier film, le premier film, à mon avis, va pas aider un petit peu au côté, je veux dire, vraiment culturel du truc, sera un petit peu différent, quoi.
Pour One Piece, ouais, ça va être plus débridé. Donc, ça,
si, tu l'as osé.
Sachez que si vous venez cosplayer, vous avez un tarif réduit pour la soirée. Ça, c'est pas mal.
C'est pas mal.
Donc, rappelons pour les Toulousains, le cinéma ABC, c'est rue Saint-Bernard, dans le centre-ville, à côté de Wilson.
Exactement, complètement à part. Toujours côté cinéma, sachez qu'il y aura, enfin, ça se passe dans un cinéma, mais c'est un BD concert, comme ceux que l'on a vu à Angoulême, puisque c'est une initiative qui a été lancée par Benoît Mouchard de l'organisation d'Angoulême et qui commence à s'exporter. Ce sera vendredi prochain à 20h à la Cinémathèque de Toulouse, un BD concert autour de l'œuvre Après la nuit de Henri Meunier, Richard Guérineau, et donc sera illustré musicalement par Splendor in the Grass, précédé d'un film des années 20. Ciné-concert, si je me trompe. Et le lendemain, le samedi 17, eh ben, les auteurs Henri Meunier et Richard Guérineau seront en dédicace à la librairie Terre de Légende. Jeudi 29, Eric Lhomme sera à la librairie Gibert pour dédicacer donc ses romans, puisque c'est un auteur de jeunesse et de fantasy. Ce qui, à mon avis, est plus qu'intéressant. Samedi 8 octobre, Guillaume Bouzard, qui est l'auteur de The Autobiography of Me. Il a aussi fait The Autobiography of Me Too et The Autobiography of Me Again. Au requin marteau, aussi illustrateur, et ça devrait faire plaisir à du sport, dans Fluide Glacial et dans SoFoot. Tiens, là, tout d'un coup, il a l'œil qui pétille. Ce sera à librairie Gibert, donc samedi 8 octobre, ainsi que Rollum, qui est l'auteur de la série Andy et Gina, dont le cinquième tome est sorti. C'est, si je me souviens bien, l'histoire de deux infographistes indépendants qui sont en couple, etc. C'est un petit peu fun. Mais sans plus, en tout cas, si vous cherchez des trucs rigolos et sympas, ce sera, à mon avis, vraiment dans une saine ambiance assez fun et créative. Ce sera samedi 8 octobre à la librairie Gibert à partir de 15h. On va peut-être commencer tranquillement sur le... Oups, oui, alors si le CD se ferme au moment... Parce que j'ai remarqué, tu vois que... Nos CD ont tendance à se fermer au bout de 30 secondes. Donc quand tu es en train de parler, t'as pas le temps en même temps de remettre. On va peut-être parler de heavy metal, enfin de Rage Against the Ordre imposé, avec Lolita HR.
Oui, alors Lolita HR, donc c'est une réédition, puisque pour l'instant il y a deux albums parus, deux tomes qui sont en noir et blanc, qui avaient été précédemment édités en 2007 chez les Humano. Et donc ça c'est réédité aujourd'hui par une petite maison d'édition qui a été montée par les deux auteurs, qui s'appelle Edola Édition, et c'est scénarisé donc par Delphine Rieu et Javier Rodriguez. Alors en l'an 15 de l'ère du dirigeant Néponine, un virus touche tout type de population, les malades se changent en êtres hybrides et sont parqués dans des sanatoriums pour y finir leurs jours entre mutants. Ils vivent en ghetto, prenant des substances les aidant à supporter leurs conditions et provoquent des hallucinations. Mehdi est un adolescent plein de vie, mais contaminé lui aussi, et tente de joindre les deux bouts en travaillant dans un bar. De notre côté, la scène musicale est truffée de robots chanteurs formatés. Quand je dis robots, c'est vraiment des robots, c'est des robots, quoi. Véhiculant les messages du dirigeant et endormant les masses. Mais une chanteuse provocatrice se place en rupture de la masse. Son nom est Lolita. Elle est parvenue à toucher le cœur des gens grâce à son album HR pour Human Resistance. Mehdi est amoureux de Lolita, deux êtres ne pourraient être aussi éloignés, mais chacun aspire à changer de vie. Pour le meilleur, c'est peut-être pas sûr. Alors, pendant que je transmets les tomes pour que mes compères se fassent une idée étonnée. Alors, voilà.
Alors, c'est pas la peine parce que tu m'as demandé de chercher un truc sur YouTube.
Oui, oui.
J'aurais pas le temps.
Voilà. Et donc c'est une série prévue en 4 tomes. Et moi, ce qui m'a frappé, c'est que ça vraiment, ça porte les tout ce qui est propre à la jeunesse, les tout ce qui est désillusion, les plus brutales, un romantisme un peu désespéré, des personnages qui ont tous la rage.
Ouais, pas... vous êtes trop méchants, vous les adultes. En plus, vous avez que des partis politiques à voter. Où est l'amour?
Alors voilà, les personnages qui sont tous porteurs de rage, d'ailleurs pas seulement la maladie, mais la rage au plus profond. C'est noir de chez noir. Il y a deux univers, l'univers du pouvoir qui est très glacé, très froid, avec des brillances, des fenêtres de partout, qui contraste vraiment avec avec les ghettos qui sont plus avec des gens qui se transforment en animaux, ou c'est un peu plus, ça transpire un peu plus, tu vois, c'est ils essaient de joindre les deux bouts, alors ils font des petits ils traficotent un peu, et à un moment donné, ça s'embrase parce que justement Lolita est au cœur d'une grande affaire qui va tournebouler certains détails de l'establishment. Alors justement, le graphisme, quand on feuillette ça, on se dit bon, ça fait un peu, on va pas dire amateur, mais il y a quand même un côté un peu maladroit dedans dans le dessin de Javier Rodriguez. On voit qu'il y a des cadrages qui sont un peu plan-plan, on voit qu'il utilise pas mal de dégradés qui donnent un côté froid quand même à ses dessins. Mais finalement, en fait, quand tu vois l'histoire, tu vois vraiment le côté punchy de son dessin, c'est qu'il y a déjà, il y a un découpage qui a tombé. Alors déjà, le découpage, il y a des planches entières qui se passent en parole, voilà, et puis tu as une énergie qui déborde des dessins, tu as l'impression que les planches te crient dessus en fait. Mais ce qui frappe surtout, c'est le scénario. Alors scénario, au départ tu penses bon voilà, c'est une love story entre un mec qui pourra jamais se marier avec la nana de ses rêves, c'est comme quelqu'un qui regarde sera tombe amoureux d'Alizé. Non, peut-être pas Alizé, c'est Lolita. Le scénario en fait, tu aperçois au fur et à mesure que chaque personnage, il y en a aucun qui est vraiment ce qui semble être au départ. T'as le, voilà, on peut pas spoiler, mais voilà, il y a tous les personnages, ils ont même les ceux qui gravitent autour de la chanteuse, les amis du héros, le héros lui-même aussi, il se révèle assez différent du postulat de base. Ben c'est ça qui frappe en fait, puisqu'au détour de, c'est divisé en chapitres et au détour de chaque chapitre, t'as un putain de cliffhanger à chaque fois, et tu te dis ah. Et comme c'est un monde totalitaire futuriste, on pense aussi à Brésil. Et dans Brésil, il y a des trucs pas cool qui arrivent à certains personnages. Et là, c'est pareil. T'as des tortures aussi qui ça frappe aussi parce que il y a des personnages que tu pensais un peu au-dessus de certains trucs qui sont un peu rattrapés par la réalité de ce monde-là. Et bon, ça fait froid dans le dos quand même. Alors là, on en est à la moitié de la série. Tu sais pas trop où ça va aller parce qu'il y a un sacré retournement à la fin du 2. Alors voilà, moi je demande à voir, en tout cas c'est énergique, c'est nerveux. Moi ça m'a rappelé, c'est le pendant un peu plus animal et sérieux de, évidemment, l'autre série musicale futuriste dont on a déjà parlé, c'est The Bazer. Avec vraiment empreinte de rock et tout, avec des personnages qui ont la rage et qui veulent renverser le pouvoir, avec une chanteuse qui a le pouvoir justement toucher le cœur des gens par ses capacités vocales. Et voilà, on retrouve ça aussi. Lolita HR est une vraie bonne surprise. Deuxième tome s'appelle Résistance et le premier je l'ai pas sous les yeux, donc c'est Xavier qui l'a.
Excuse-moi, Rockstar, et voilà. Donc suivant Résistance. En tout cas, vas-y, continue.
Voilà, c'est tout. Donc Lolita HR. Alors il y a beaucoup d'hommages, des clins d'œil. Bon, c'est propre à des univers de créatifs dans la BD qui débutent. De façon, chaque fois qu'il y a quelqu'un qui commence sa carrière dans, que ce soit au cinéma, en BD, on essaie toujours de placer des références. Donc vous verrez, le méchant, il est vraiment calqué sur Gary Oldman dans le Cinquième Élément, c'est Zorg. Hein. Mais c'est pas gênant. Voilà, donc Lolita HR, 2 tomes parus, c'est chez Edola Édition.
Superbe édition, en tout cas, hein, couverture cartonnée.
Oui, papier graveleux.
Mat, papier graveleux.
Graveleux.
Après le horripilant, nous avons le graveleux.
Voilà, c'est tout à fait des horripilants.
Avec horripilant.
Non, mais bon, alors par contre, c'est une... faut faire gaffe parce que c'est une couverture qui salit, qui s'abîme très vite, mais en tout cas, oui, qui met vraiment en valeur le dessin, et on retrouve beaucoup de la patte quand même. On sent sur la palette graphique qu'il y a beaucoup d'inspiration de Benjamin
Pour la couverture,
en tout cas.
Pour les couleurs vives. Oui. Ouais. Alors voilà, et donc en plus
et assez épais.
Oui. Assez épais, ouais, c'est des pavés, ouais. Et alors c'est en noir et blanc, c'est inspiration un peu manga, mais sur au niveau du trait, c'est pas du tout manga. Et pour préparer l'émission, j'avais demandé à Xavier de récupérer.
Non, c'est pas la peine.
Ah, c'est pas possible.
C'est pas possible, bon. Je m'en doutais.
Sachez que sur nos billets, vous verrez qu'il y a un clip musical qui a été réalisé pour l'héroïne par un trio d'artistes qui a été enregistré à la Nef à Angoulême, puisque ce sont des auteurs angoumoisins. Et donc c'est un clip qui tabasse, qui a beaucoup d'énergie, qui est fait à partir des planches de l'album. Et là, le morceau vraiment est super bien. Et moi, je me suis écouté en boucle hier pendant que je préparais la chronique. Vous verrez dans les liens le morceau en question, voilà.
On va peut-être passer dans ce cas-là à ceux qui appliquent la justice et en même temps la condamnation d'une manière une manière simple et facilitée d'une justice et d'une police décomplexée. Je parle bien évidemment de Judge Dredd. Ah non, c'est Batman.
Oh, c'est... Ouais. Voilà, ça, on va dire que c'est le bourre-pif règle certains problèmes.
Qu'est-ce que qu'une petite exaction entre amis.
Non, mais là on n'en est pas du tout là, hein, de toute façon, quoi, dans Batman en ce moment. Non, je vous parle de Batman à l'occasion de la sortie. Bon, ça fait déjà pratiquement un mois de toute façon, mais enfin bon, comme c'est un extra, alors on connaît le nouveau périodique Batman Universe, bien sûr, entièrement dévolu consacré à Batman et à son univers. Et là, bien dans ce Batman Universe, il va y avoir quelques petits extras. Parce que dans le Batman Universe, vous n'êtes pas sans savoir que Bruce Wayne a disparu. On ne sait pas où il est. Batman s'est fait dégommer. Donc, il a l'air d'être mort.
Okay. Et donc, c'est Dick Grayson qui a repris le costume, c'est
voilà,
ça ?
Voilà, t'as tout compris. Voilà. Et c'est un peu le bordel à Gotham. Mais on commence à se demander. Et justement, Dick Grayson, justement, aidé par Robin, c'est-à-dire le nouveau Batman... Eh ben, commence à se dire aussi que Batman n'est pas mort, que Batman doit être coincé quelque part, ils savent pas où, peut-être dans un trou, dans une faille spatio-temporelle, enfin n'importe quoi.
Dans un piège à loup quelque part.
Coincé par la magie, enfin bon, ils imaginent tout et n'importe quoi. Et de l'autre côté, ben nous on sait pas du tout, nous lecteurs on sait pas du tout ce qui est devenu de Bruce Wayne depuis son fight avec Darkseid. Donc là, bien dans ce Batman Universe Extra, eh bien c'est tout simplement le retour de Bruce Wayne qui commence, et là c'est quand même un gros paquet.
Non, c'est pas le retour qui commence, c'est qu'il revient.
Oui, il revient, mais attention, mais bon, c'est quand même le gros paquet scénaristique de la saison en ce qui concerne Batman. Toujours Grant Morrison qui était aux manettes avec ce coup-ci. Bah oui, là de toute façon, il n'y a pas de problème, il s'est accaparé la série, le personnage et tout l'univers de Batman, donc avec tous les super vilains récurrents et tout. Il a tout remodelé à sa façon de voir, à sa vision, et c'est pas mal. Ça rigole pas mal du tout avec Chris Prowse dans les dessins des deux premiers et Ian Paquette dans le troisième. Parce que dans le premier, ben, on se retrouve, eh bien, dans la préhistoire, tout simplement, parce que en fait, eh bien, il a été balancé dans le temps et il se retrouve coincé dans la préhistoire. Et là, eh ben, il sait plus du tout, pas tellement qui il est. Il va se retrouver confronté à des rivalités entre différentes bandes d'homo. Ça doit être des Erectus. Enfin, ce sont déjà des chasseurs guerriers qui sont assez violents, il faut le dire. Et bon, c'est inconscient. Il n'y a pas de problème de toute façon. Hein, c'est quand même Bruce Wayne. Et il commence à se souvenir de certaines choses.
Ah ouais. On voit que papa est de retour, quoi.
Ouais, on voit que papa est de retour. Mais bon, il sait pas exactement à quoi ça. Il sait simplement, lui, c'est l'homme chauve-souris pour l'instant.
Voilà, si vous êtes adepte de Conan et de Batman, vous allez pouvoir en mettre plein les mirettes.
Là, il y a pas de problème, hein, justement, quoi, du côté guerrier, bodybuildé.
Léonidas.
Oui, non, mais ça va, quoi.
Ah oui, d'accord. Effectivement, papa est de retour.
Et au fur et à mesure de cette aventure, si tu veux, quoi, ce qui est pas mal, c'est les passages dans le temps, parce qu'en fait dans la première histoire, il est dans la préhistoire, donc là où il a été balancé par Darkseid, et au fur et à mesure de l'histoire, eh bien il va remonter le temps, enfin il va pas remonter le temps, il va plus ou moins avancer pour aller jusqu'au temps présent, et en passant par quelques petites cases telles que celle-ci qui est un petit peu onirique, où il se retrouve plongé à l'endroit de Gotham, mais au 17e, c'est-à-dire à l'époque où c'est les puritains qui règnent encore en maître sur la formation de l'Amérique, et donc il va essayer de sauver un petit peu une nana accusée de sorcellerie, puis il va balancer encore dans un autre monde, et dans ce monde, il va se retrouver chez qui ? Tout simplement chez Barbe Noire, le pirate.
Alors justement, j'ai une question.
Alors la couverture là, vous voyez, hein, c'est ouais, le pirate quoi. Donc c'est une couverture si en 10 couvertes.
Ouais. C'est sûr que si t'as pas Batman écrit en haut dessus, tu vois pas que c'est Batman hein, avec le
non,
pirate.
Mais c'est pas lui de toute façon.
Ouais.
Non, c'est pas lui du tout hein, de toute façon.
Non, quoi. Mais tu te doutes, c'est pas du tout l'univers et tout. Tu penses ouais, à une inversion.
C'est pas du tout un Camelot rouge là.
Non. Mais si tu veux quoi, c'est assez intéressant parce que comme Bruce Wayne, en tant que personnage, en tant que personne, ne sait toujours pas qu'il est vraiment Batman et que dans le temps présent quoi, c'est lui qui fait la loi sur Gotham City, qu'il est riche, homme d'affaires et tout ça, il ne sait pas là. Pour l'instant bah il est navigué, il est balancé, brinque-ballé au fur et à mesure des temps et des époques, et en essayant de se frayer un petit chemin et tout, parce que bien entendu il se retrouve mêlé au milieu de conflits, au niveau de fights pas possible, et il y a un point qui est on va dire un fil rouge qui se retrouve dans les dans la première histoire, puis tout à la fin de la troisième, c'est cette caverne avec les symboles de l'adoration des peuples anciens pour l'homme chauve-souris.
Ah.
Alors bon bah ça va un petit peu plus loin parce que on sait que, alors ça c'est la première partie si tu veux, la deuxième partie également, trois histoires, et la fin du retour de Bruce Wayne, ce sera en novembre pour l'édition française. Mais par contre, on a déjà, on peut dire un cliffhanger à la fin, avec l'apparition d'un personnage qu'on n'a pas l'habitude de voir de ce côté-ci de la galaxie, mais dont je vous ai déjà parlé.
Oh, excellent.
Un certain Jonah Hex, donc, ce qui veut dire que Bruce Wayne, dans les prochains, avant de revenir dans le présent, va certainement se retrouver dans un épisode western.
Il y a un côté double face quand même, il faut le dire.
Ouais.
Alors j'ai une question justement, est-ce que cette énumération de plein d'époques et tout, et brinque-ballet de Bruce Wayne, puisque ce n'est pas la version Batman, est-ce que c'est pas au détriment, est-ce qu'on va pas dire, ah ouais tiens il est dans les pirates, il est dans la caverne, il est avec les dinosaures et tout, et pour en mettre plein la vue, et finalement en fait c'est juste effleuré et t'as pas vraiment d'implication dedans. Est-ce que on voit que c'est quand même burné et qu'il arrive à montrer que c'est quand même Bruce Wayne,
mais c'est pas n'importe qui quand même, c'est-à-dire que bon quand je dis il se ferait un chemin à travers les époques et à travers les événements et tout, c'est-à-dire que il est obligé de
jouer des coudes
D'accord. Il en prend plein la gueule aussi, il morfle grave on va dire même mais c'est pas grave hein, c'est quand même Bruce Wayne.
Ouais.
C'est Bruce Wayne qui est déjà devenu Batman de toute façon quoi. Hein, vu la corpulence et tout, vu ce qu'il dégage, il n'y a pas de problème.
D'accord.
On se trompe pas sur la marche.
Il s'est déjà entraîné chez les ninjas.
Tout à fait.
Période actuelle, je pense qu'on va passer aux barbouzes. Ce qui est plus dans la thématique du dossier de tout à l'heure.
Pas vraiment aux barbouzes. Hein. Alors, comme d'habitude, hein, c'est The Boys.
Et on c'est soit des barbus, soit des barbouzes.
Ah oui,
wow. Oui. Eleven, et ça tombe bien. Demain, c'est le Eleven.
Mais...
September.
Ouais.
Hein ? Tu vois que ça tombe bien, quoi.
Ouais,
même.
Super.
Avec en plus, comme titre, Les Innocents. Le hasard fait vraiment bien les choses, il n'y a pas de problème. Donc, 11e sortie de cette saga. Instillé par Garth Ennis et Darick Robertson, dans lequel nos petits gars, alors on rappelle un petit peu que dans le numéro 10, il y avait plus ou moins une pause où en plusieurs histoires, il se proposait de nous expliquer qui était, d'où venaient plus ou moins les personnages principaux du groupe.
Tout à fait, oui.
D'accord,
oui,
ok. Mais là, ça repart, on va dire, il n'y a pas de problème. Un petit peu le train-train quotidien. En fait, l'événement majeur.
Avant tout, dis-moi du sport. Pour ceux qui ne connaîtraient pas The Boys, n'as-tu pas l'habitude de lire le résumé?
Je voulais y échapper pour une fois, mais enfin bon, je vais m'y coller quand même. Alors quoi, dans un monde où les super-héros sillonnent le ciel ou rôdent dans la nuit, quelqu'un doit faire en sorte qu'ils ne dépassent pas les bornes. Et ça, c'est le boulot de Billy Butcher, du petit Yogi, de la crème, du français et de la fille. Les petits gars de la CIA, une équipe de gens dangereux. Ça tombe bien, puisqu'ils luttent contre la force la plus dangereuse de la Terre, les Gugus à super pouvoir. Certains super-héros doivent être surveillés, d'autres doivent être contrôlés, et certains parfois doivent dégager.
Et c'est là qu'interviennent nos petits gars.
Alors dans ce numéro, deux événements, mais l'événement majeur, on peut dire, qui conditionne un petit peu toutes les aventures contenues dans ce numéro 11, parce que Les Innocents, en fait, c'est encore un groupe de super-héros, mais un petit peu spéciaux ceux-là, parce qu'en fait, c'est le groupe de super-héros le plus innocent, justement, qu'on puisse imaginer. Hein, c'était carrément une famille avec...
c'est la famille Ingalls.
Une vraie famille, si tu veux, avec des gens qui ont des pouvoirs de merde ou des pouvoirs nazes. Et quand ils se servent uniquement pour faire récupérer le chat coincé sur l'arbre, des trucs comme ça, des trucs à la con. Voilà, et ils sont gentils, et ils sont là pour faire le bien dans le quartier.
Ouais, ils sont gentils, comme on dit.
On sent qu'ils vont morfler.
Enfin, à fond, quoi. Et donc, il se fait que Vote American, à un moment donné, doit pas se placer comme chef de groupe un autre super vilain, mais lui qui fait plein de conneries, qui a fait des conneries avec un autre super groupe. C'est pour ça, plus ou moins une période de probation et tout. Et donc, il va prendre la tête de ce groupe, le groupe des super pépères. En fait, c'est comme ça qu'il s'appelle.
Mais t'as fait quand même un lapsus révélateur. T'as dit un super vilain. Non, c'est un super héros.
Trash dans le ouais. Trash, quoi. On va dire. Comme ceux dont on a l'habitude de parler dans The Boys, bien entendu. Hein. Et donc il va y avoir une petite surveillance sur ce petit groupe pour savoir ce qui se trame du côté de Vote American. Ceci en parallèle avec l'acquaintance de deux personnages de Vote American, dont l'un, le masculin, est très impliqué dans le gros baston et dans le fight final qu'il y a eu dans le Hérogasme qui était donc le numéro 9 et dans lequel bon il y a eu pas mal de dégommages, on va dire, de part et d'autre, enfin surtout de l'autre côté, et surtout ce qui déclenche un petit peu cette histoire, c'est le fait que Billy Butcher, complètement par hasard, se rend compte que Kiyugi sort avec Stella.
Ça devait arriver.
Ça y est, on y est. Hein, et donc il va essayer de savoir pourquoi. Alors il va mener son enquête de son côté. Ça va créer des tensions dans l'équipe d'ailleurs, entre les membres de l'équipe, parce que Billy Butcher, même en ayant accès à des informations que toi tu sais pas d'où elles viennent, il le sait. Alors tu te demandes si lui également il joue pas un jeu un petit peu double comme ça. Tu sais pas trop sur quel pied danser à ce niveau-là. Et pendant pratiquement tout le bouquin, tout le tome, il va essayer de chercher à savoir si Kiyugi n'est pas quelqu'un qui est infiltré par Vote American pour justement dégommer le groupe. Ou s'il est un petit peu stupide et puis que il y a rien. Donc ça donne un épisode un peu plus complet, on va dire, avec sa part d'humour, quoi. Ça c'est surtout le côté le groupe de super héros, les super pépères, avec sa part de complot, de magouille. Ça c'est le côté Vote American, et aussi la redéfinition un petit peu des différents personnages par leur place qu'ils ont dans le groupe, parce que ça va chier un petit peu, faut dire ce qui est, mais à l'intérieur du groupe,
la zizanie,
voilà. Donc c'est The Boys, Les Innocents, numéro 11. Alors Garth Ennis au scénario, Darick Robertson au dessin, mais il y a également Joel McCrea, je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle, John McCrea, voilà, et Keith Burns au dessin. Il y a pas de problème. Vous pouvez acheter, c'est en vente dans toutes les bonnes crèmeries.
Oh la fin,
il y a la crème dedans.
Ouais. Et je termine avec
du faf encore.
Ça c'est du lourd. C'est du cartonné et c'est du rigide. Ça s'appelle Portrait mythique du football. C'est sorti chez Tana Édition. Et
c'est une flingue
réalisé par Bernard Morlino, qui fait également les photos, me semble-t-il, ou qui a récupéré de vieilles photos, bien entendu. Et la préface est d'Eric Cantona. Alors ça vaut le coup déjà pour la préface d'Eric Cantona, parce que on voit qu'il a une dent par rapport à la génération actuelle et qui joue plus volontiers à la PlayStation, à FIFA Soccer, PES et tout ça, quoi. C'est-à-dire les jeux de football, plutôt que de descendre dans la rue avec un ballon pour jouer au foot. Tu vois, c'est ça qu'il en a gros sur le patate et tout, et puis c'est ce qu'il regrette un petit peu par rapport à l'évolution du foot moderne. Donc ça c'est son intro. Après il y a quelques thématiques par rapport aux différentes légendes du football. les pionniers, les génies, tout ça, enfin bon, mais par
les
contre, ça vaut le coup. Voilà. Ça vaut le coup parce que Bernard Molino, c'est lui qui fait ses textes et tout. Et ses textes, bah, moi, je les aime bien, quoi. C'est-à-dire que, il s'est pas un béni oui-oui par rapport, aux personnages, aux différents, footballeurs qu'il commente, hein, c'est-à-dire qu'il présente. C'est une présentation très succincte de la carrière, avec quelques petits apartés, avec quelques petites, on va dire, petits commentaires de goût, bien sûr, mais ça reste tout à fait lisible, un petit peu dans l'esprit de SoFoot. C'est pour ça que moi j'aime bien, quoi. Il y a pas de problème, quoi. Et bon, bah, ok, il y a tout, et il y a surtout des photos qu'on n'a pas trop l'habitude de voir. C'est ça qui est assez intéressant. C'est du noir et blanc, et là aussi, ben, on se rend compte que ça peut être aussi vachement joli et tout, genre de bouquin que t'as envie d'offrir à Noël ou comme cadeau d'anniversaire, en fait, et tout, sans problème, quoi.
En fait, c'est un style de bouquin pour des amateurs de foot qui ne connaîtraient la culture foot que depuis un nombre limité d'années.
Oui, mais enfin bon, ben, si tu veux, comme c'est assez complet, il y a quand même pas mal de gens concernés, si tu veux, quoi. C'est quand même un bouquin qui fait près de 150-160 pages. Il y a quand même pas mal de footballeurs, je sais pas, il y a une trentaine, quarantaine. Ouais. Mais c'est intéressant parce que t'as pas que les grosses légendes qu'on connaît. T'as Facchetti, quoi, un mec que peu de gens connaissent, quoi. T'as Baggio, t'as Charlton, Best, bien sûr. Paul Scholes, tu vois. C'est-à-dire que bon, bah, c'est pas vraiment des mecs, ouais, qui sont tous devenus de super grosses vedette, adulé des foules, mais ça vaut le coup pour ça, quoi. Donc ça, c'est un bouquin vraiment à conseiller, non pas seulement pour les photos, je veux dire, même à la limite, les photos c'est accessoire, mais pour les textes, et un qui résume très très bien la situation, qui replace les choses dans leur contexte. Je dirais que c'est un bouquin pratiquement parfait pour quelqu'un qui ne connaît pratiquement rien au foot et qui a envie de s'instruire un petit peu. On peut le feuilleter comme ça, il n'y a pas d'ordre obligé non plus, hein. On peut se dire, tiens, aujourd'hui je vais me taper du lit, enfin, bon, dans le bon sens du terme, bien sûr, tu vois.
Je suis complètement désespéré. Non, parce que moi j'avais prévu la transition entre The Boys et le dossier d'après, tu me l'as complètement flingué. Je pensais que ça aurait attendu la semaine prochaine. Merde, foot, non. Ça intéresse personne, moins de 20% de la population.
Mais si, mais c'est déjà pas mal, mon gars.
Oui, bien sûr.
Allez, donc c'est Portrait mythique du football chez Tana édition par Bernard Molino, préface d'Éric Cantona.
Oui, parce que moi j'avais prévu Public Enemy, Son of a Bulch pour aller juste après The Boys, ce qui me semblait logique. Enfin bon. C'est une flingue. Oh, putain. Oh, je suis pas content. Pas content. Tu me diras, au foot, ils sont 11 aussi.
China ain't never giving back that goddamn plane. Must got this old nation train on some kennel ration. Refrain, the same train, full of cocaine, blows the brain. Have you forgotten? I've been through the first term of rotten. The father, the son, and the holy shit, we all in. Don't look at me, I ain't calling for no assassination. I'm just saying, who voted for that asshole of your nation? Deja Bush, crushed by the head rush when I wrote the bum rush. Saw you salute to the then vice prez who did what Reagan said. And then became prez himself, went for Delph, knee deep in his damn self. Stuck in a three-headed bucket, a trilateral bullshit. Sorry, ain't no better way of putting it. No, you cannot freestyle this, cause your ass still ain't free if I fight for y'all and they get me.
Come on!
How many y'all is coming to get me? None, cause it's easier to forget me. Ain't that a bush? Son of a bush is here all up in your zone. You ain't never heard so much soul to the bone, I told y'all when the first bush was tapping my telephone. Spy versus spy, can't trust them as you salute to the Illuminati. You know what? Take your ass to your 1 million party. Go on! He's the son of a bad man.
He's the son of a bad man.
Son of a bad.
He's the son of a bad.
The son of a bad man.
He's the son of a bad man.
Son of a bad.
He's the son of a bad.
The son of a bad man.
He's the son of a bad man.
The son of a bad.
He's
certified genocide. Ain't that a push? Repeat, ain't that a push? Out of nowhere, headed to the hothouse. Killed 135 at the last count. Texas bounce, Texas bounce, come on. Cats in a cage, got a ghost of a chance of coming back from your whack. Ass killer machine, son of a bush, ain't that a son of a bush? Cats doing bids for the same bush shit that you did.
The farmer.
Serial killer kid, serial killer kid, go!
He's the son of a bad,
he's the son of a bad man.
He's the son of a bad man.
Son of a bad,
he's the son of a bad,
the son of a bad man.
He's the son of a bad man.
Son of a bad,
he's the son of a bad,
he's the son of a bad man.
He's the son of a bad man.
Son of a bad,
he's the son of a bad,
the son of a bad man.
He's the son of a bad man.
Son of a bad.
The father, the son. The father, the son. The father, the son, and the holy priest. The father.
It's a real thing, used to make you swing, used to be your thing. Daddy had you under its wing, son of a bush. Bringing kilos to fill up silos, you probably sniff piles. Got inmates in Texas scrubbing tiles. That shit is wild, that shit is wild. CIA child,
the father.
That shit is wild, CIA child. That shit is wild, CIA child. That shit is wild, CIA child.
He's the son of a bad.
He's the son of a bad man.
He's the son of a bad man.
Son of a bad.
He's the son of a bad.
The son of a bad man.
He's the son of a bad man.
Son of a bad. Son of a bad man.
He's the son of a bad.
Son of a bad man.
He's the son of a bad.
Son of a bad.
He's the son of a bad man.
He's the son of a bad man.
He's the son of a bad.
Son of a bad man.
He's the son of a bad man.
Son of a bad man.
He's the son of a bad. He's the son of a bad man. He's the son of a bad. He's the son of a bad man. Son of a bad. He's the son of a bad man. I'm not afraid
of you. Et du sport les a reconnus évidemment puisque c'est les Public Enemy.
Yeah.
Et on va entamer donc on voulait faire un dossier en fait, on voulait pas forcément revenir dans le larmoyant sur les événements et tout le reste, on voulait plutôt s'intéresser, puisque c'est le principe quand même de cette émission, de s'intéresser à la BD, aux séries télé, aux films et tout le reste, à comment en fait les attentats du 11 septembre ont durablement marqué les États-Unis jusque dans leur mythologie, un peu finalement comme l'attentat de, comme l'attaque de Pearl Harbor pour les Japonais. Ça reste, je vais dire, quelque chose d'assez intéressant, surtout parce que Primo, c'est un événement actuel sur lequel toutes les télés ont diffusé immédiatement en direct et qui a suffisamment marqué, je vais dire, Hollywood et surtout la politique pour que cela soit un sujet sociétal extrêmement important sur lequel aucun scénariste ne pouvait passer à côté pendant un certain temps. Le 11 septembre lui-même, la télévision s'était arrêtée, la diffusion du premier épisode de 24 qui devait être lancé, je sais plus, je crois que c'était le 16 ou le 17 septembre, a finalement été reporté à fin octobre, parce qu'il a fallu retourner une réécrire le scénario et retourner une partie des scènes, puisque dans le premier épisode quand même on a un avion qui explose en vol.
Tout à fait.
Oui. Donc je vous laisse imaginer, bon, il faut réécrire et tout, faut tout refaire en catastrophe. Les films ont été mis en suspens. Dommage collatéral avec Schwarzenegger était prévu de sortie en octobre, puisque c'est l'histoire d'un pompier qui se venge d'un terroriste. Finalement, il est sorti en février de l'année suivante et ça a été un flop, hein, d'ailleurs, ce qui n'avait rien d'étonnant. Finalement, vu le sujet, les gens en avaient peut-être un peu marre. Il y a eu des séries qui évidemment s'étaient mis en stand-by. Il y a des séries qui, elles, étaient plus ou moins dans le sujet. Et du coup, on fait un épisode hors série absolument exceptionnel. Ça a été le cas pour Third Watch, alias New York 911 et West Wing à la Maison Blanche. New York 911 avait fait un parti pris qui était assez intéressant, si je me souviens bien. Ils avaient en fait tout simplement fait jouer les acteurs habituels de la série, mais donné en fait qui interprétait en fait, qui lisait les textes des pompiers qui avaient été sur place. Donc c'était en fait des témoignages même pas romancés, mais incarnés en fait par les acteurs. West Wing, c'était différent puisque en fait c'est, on apprend qu'il y a une attaque, si je me souviens bien, à ce moment là en fait, c'est au moment où il y a une visite, l'une des multiples visites scolaires en fait, hein, de à la Maison Blanche, et ce sont des ados, et donc les ados sont du coup confinés puisque l'Amérique est sous attaque, etc. Donc on ne voit pas le président, on ne voit personne, mais en fait, et ben, au fur et à mesure, c'est, on montre les conseillers qui discutent avec les ados et qui disent oui, ben c'est ça, c'est telle manière. Pourquoi il y a le terrorisme, pourquoi on fait la guerre à tel endroit, pourquoi ci, pourquoi ça. C'était assez intéressant en fait, hein, vraiment cet épisode-là. Du coup, épisode qui a été tourné, écrit, tourné, enregistré en moins de 48 heures, je crois, comme New York 911, un peu vraiment dans le speed, avant le relancement des saisons qui ont été complètement décalées. Dans l'année qui a suivi, du coup, en octobre, octobre, mars, etc. Et ben, on a fait plein de téléréalités comme les cop shows qui existaient. Ben, du coup, on a dit, eh ben, on va parler pour une fois, on va faire des cop shows, l'équivalent des cop shows, mais cette fois-ci sur les pompiers. D'un autre côté, ces fameuses télé-réalités sur les pompiers, etc., les chaînes de télévision sont vite rendues compte d'une chose absolument idiote, mais les pompiers, s'ils doivent être continuellement sur la brèche, eh ben, les trois quarts du temps, il se passe rien. C'est-à-dire, ce sont des héros, ben oui, qui traînent dans leur truc. Donc, on a fait des reportages, on a fait des spéciales, des trucs comme ça, et puis on a voulu faire une télé-réalité, et en fait, il se passe pas grand-chose systématiquement dans une caserne de pompiers. Et du coup, ben ces héros-là, ben on les a très vite oubliés, puisque en fait chaque chaîne a voulu faire sa télé-réalité sur les pompiers et toutes ont arrêté au bout d'un mois, deux mois, parce que ouais, bon, en fait, il se passe rien. Mais aussi, ben, outre donc ces héros, ces urgentistes, ces pompiers, ces flics de rue en uniforme qui devenaient des héros ordinaires, on a vu arriver, débarquer des héros ambigus. Jack Bauer de 24 en est un. Je rappelle quand même que la série avait commencé à être produite avant les attentats, mais cet événement a vraiment fait exploser, pardon, excusez-moi, Jack Bauer. John Kilmer d'Agence Matrix, qui est une série qui est arrivée en 2004, donc après, suite à ces événements, en est un autre. Ce sont des patriotes qui sauvent tous les jours leur pays de sombres menaces terroristes et n'hésiteront pas à torturer un de leurs compatriotes si leur douleur peut sauver la vie de dizaines de concitoyens. Ce sont des héros qui ont perdu leur innocence, à la limite de virer salaud à tout moment, de choquer vraiment leur entourage, pourvu que le plus grand nombre soit sauf, et uniquement en fait pour des raisons d'État. Pendant 5 ans, la fiction soutenait ouvertement cette guerre à la terreur. Dans la première saison de NCIS, Gibbs dit à un terroriste arabe qui l'interroge à Guantanamo que finalement Guantanamo c'est un camp de vacances par rapport à ce que je te ferais subir, mais c'était avant que l'on ait les premières photos de ces pauvres prisonniers qui d'ailleurs la plupart n'étaient juste soupçonnés, et les trois quarts en fait juste innocents dans des conditions de rétention qui étaient absolument déplorables et qu'on a fait passer en juridiction d'exception parce que sinon ça n'aurait même pas été acceptable. Il y a aussi ces héros gardiens ordinaires de la démocratie. Dans le premier épisode de Lie to Me, le docteur Lightman lit les mensonges sur les visages et recrute Rhea Torres, une de ses visagistes de la TSA. Alors la TSA, c'est un peu la police des aéroports qui existe aux États-Unis, c'est-à-dire ceux qui sont chargés des contrôles, etc. Et ça a été fondé après justement les attentats du 11 septembre. Donc Rhea Torres a été recrutée sur ses résultats exceptionnels en tant que visagiste. Alors c'est extrêmement drôle quand on sait que depuis 5 ans la TSA est minée par des scandales à répétition, c'est-à-dire que l'on a engagé des gens sans réelle qualification, ils font du visagisme et 3 fois sur 4 on est complètement à côté de la plaque. Il y a eu des cas d'abus absolument honteux et scandaleux, c'est-à-dire par exemple il y a une fille qui a été de 4 ans qui a été mise à nu sur la foi tout simplement que son père était un homonyme d'un autre célèbre terroriste qui plus est qui avait été arrêté. Donc des choses qui étaient absolument scandaleuses et des dérives qui étaient absolument pas tolérables. Bref, la TSA est minée par les scandales à répétition, manque totale formation de ses agents, des atteintes inadmissibles à la sphère privée, voire même des accidents plus ou moins graves qui ont été causés par la négligence justement de cette agence. Finalement, l'ennemi, peut-être qu'il est de l'intérieur. Dans 24, de nombreuses fois, l'entourage du président complote contre lui. Et d'ailleurs, il y a souvent des coups d'État qui sont arrêtés de justesse. Michael Weston...
Il faut savoir que dans la saison 5, c'est le président lui-même qui est le méchant. Qui est le bad guy numéro 1 de la saison.
Ouais, spoiler.
Oh ouais, la saison 5, ça fait 3 ans qu'elle est diffusée, merde.
Michael West End de Burn Notice est mis à pied au début de la série et l'outrage ultime, on l'a dans la série Jericho où les bombes atomiques qui brûlent la nation américaine ont été armées par ses propres dirigeants. Finalement, le terrorisme devient un prétexte d'un flicage violent, sans limite, d'un état fascisé par ses peurs et ses contradictions, plus que fasciné. Des films comme Ennemi d'État, Complot sont sortis avant 2001. Mais semble d'une actualité encore plus brûlante, finalement, après coup. Et on ne parlera pas du volet des guerres extérieures en Irak et en Afghanistan, surtout que cette partie a été superbement traitée du côté opprimé dans la troisième saison de Battlestar Galactica, où en fait tout le thème est sur la résistance et la justification du terrorisme. Ça fait un peu bizarre quand on y songe. Dans l'étude Prime Time Terror, que vous pouvez retrouver sur primetimeterror.com, c'est une étude qui est sortie cette semaine d'un think tank américain en collaboration avec des universitaires de l'UCLA. L'UCLA, c'est une université c'est l'université de Los Angeles, qui est une université qui enseigne sur l'art de l'écriture, sur le journalisme et surtout en fait sur les droits sociaux et les droits de l'homme. Donc c'était assez intéressant de voir ce qu'ils ont vu. Ils ont étudié 49 épisodes de 10 séries, ce qu'on appelle de prime time series, qui passent à 20h ou à 21h aux États-Unis. Donc il y a NCIS, Les Experts Miami, 24, New York Unité Spéciale, Special Victim Unit, House et The Good Wife, qui ont été diffusés l'année dernière. Alors étonnamment, les stéréotypes raciaux et culturels tels qu'on les a connus à la télé il y a 10 ans, voire même 5 ans, ont disparu. Les ennemis sont devenus suffisamment ambigus pour que le délit de sale gueule passe beaucoup moins bien. En fait, la méthode magique du docteur Lightman est assez marginale. Chacun a ses ambiguïtés, après tout. C'est un petit peu logique. Et dans l'ensemble des statistiques, l'équipe du Norman Lear Center, donc c'est eux qui ont fait cette étude, on arrive à une conclusion étonnante. Moins de stéréotypes. Et finalement, la fiction est plus proche de la réalité qu'il n'y a 10 ans. Et là, je les cite. Alors que nous ne nous étions pas fixés comme tâche d'évaluer l'exactitude de ces situations, nous nous étions intéressés à établir une analyse commune de ce qui était exactement raconté. Quand nous comparâmes ce que nous avons trouvé aux statistiques de la guerre de la terreur, et surtout à la guerre à la drogue qui a été lancée il y a 40 ans par Nixon, nous avons découvert que la fiction télé est plus proche de la réalité que des stéréotypes sur l'apparence des terroristes et des drogués et la consommation réelle de drogue aux États-Unis. Néanmoins, il nous est apparu que ce qui est victime de la salle de montage aux coupes sont les mécanismes basiques de notre système judiciaire. La lecture des droits Miranda est systématiquement esquivée dans les affaires de terrorisme, la présence des avocats dans les interrogatoires, voire même est carrément niée, et finalement, bah, on ne parle pas du volet judiciaire, donc des procès et de l'application des peines en elles-mêmes. Ils ont relevé 6 points assez intéressants, résumés dans une excellente vidéo qui est en deux parties, et pour l'instant on a eu que la première partie. Dans l'esprit du public, les terroristes sont principalement des Arabes musulmans du Proche-Orient. Dans les séries étudiées, les terroristes étaient la majeure partie du temps des Américains de race blanche. Malgré le fait qu'une majorité d'Américains soutiennent que le profilage racial dans les aéroports par la TSA, eh ben, pas un des suspects de trafic de drogue ou de terrorisme ne sont profilés racialement dans ces épisodes. Même si 63% des Américains sont partisans de techniques agressives d'interrogatoire, dans les fictions, les gouvernements américains s'en servent rarement et elle est jamais efficace. À une exception près, il explose à chaque fois, je veux dire, il est là pour redresser la moyenne, bien évidemment c'est Jack Bauer. Les consommateurs de drogue ne sont pas décrits comme des méchants et sont finalement jamais arrêtés ou traînés en justice. Alors qu'aux États-Unis, la plupart du temps, eh ben, y a quand même une politique de, d'exception zéro. Malgré la réelle omniprésence des Afro-Américains et autres minorités dans les prisons US pour usage ou vente de stupéfiants, dans les fictions, les dealers et producteurs de drogue étaient principalement des blancs. Et dans les 49 épisodes analysés, les trois Miranda ne sont jamais lus aux suspects de trafic de drogue ou de terrorisme. Tout cela est résumé dans une étude assez intéressante qui fait un nombre de pages assez conséquent. Donc c'est sur primetimeterror.com. On mettra le lien évidemment sur le site du Supplément Week-end. Mais en plus, c'est illustré d'une vidéo très bien mise en scène, très bien écrite. Alors évidemment, il faut comprendre l'anglais pour la lire, mais Thomas, tu l'as vu, et le moins que l'on puisse dire... Ah ouais.
Oui, c'est bien fait, puisqu'en plus, ils font les intros de chaque étude, en fait. C'est des remontages super speed de séquences de flingage, de fusillades urbaines. Voilà, et puis après, bon, moi, j'ai pas tout compris, j'ai compris la première partie surtout, mais c'est vrai que c'est intéressant, oui. Et ça tord justement quelques idées reçues comme quoi ouais dans les Américains c'est manichéen, les méchants sont des basanés, mais en fait non, pas du tout.
Excusez-moi, voilà, donc je vous invite à aller si vous comprenez l'anglais, hein, sinon vous allez vraiment être largué, à aller reconsulter cette étude, c'est assez intéressant. Je sais pas quel est ton ressenti du sport, toi qui chronique les séries télé. Moi je me souviens quand on avait fait l'émission pilote, hein, je veux dire, enfin la série pilote du Supplément Week-end qui s'appelait Digestif. Non, j'ai oublié le nom d'ailleurs.
Indigeste.
Culture, mais
brouillon de culture,
moi j'étais pas, mais
oui, t'y étais pas, et à l'époque il y avait JB,
mais tu avais demandé ces émissions. Ah, c'était quoi déjà?
t'avais parlé de 24, mais uniquement sur la manière de sur la manière de l'écriture, etc. à l'époque, puisqu'on l'avait pas encore vu, et on s'est dit c'est peut-être une bonne idée. Et moi, ce que je voudrais, c'est finalement comment tu vois en soi justement l'évolution des séries américaines de ce côté-là, justement sur le traitement du terrorisme, de la lutte de ce côté-là, de l'ennemi invisible.
Bah, comme d'habitude, ça dépend du ton de la série et surtout de l'habileté des scénaristes, hein, c'est ça surtout, quoi. Alors bon, de toute façon, il n'y a pas de problème, hein, dans l'ensemble des séries, de toute façon, il y a eu un hommage plus ou moins appuyé à ce qui s'est passé le 11 septembre. On voit que par exemple dans New York District ou Law and Order, le classique, par exemple, ils se mettent à avoir un petit pins avec le drapeau américain. Il y a même un épisode qui est un hommage appuyé puisque il se passe juste quelques jours après le 11 septembre. Enfin bon, l'épisode est supposé se passer comme ça. Un épisode d'ailleurs qu'ils ont tourné assez rapidement. Il n'y a pas de problème, ça, c'est un truc qui a terriblement marqué. Enfin, de toute façon, il faut le rapprocher de ce que les Ricains ont toujours fait, hein, c'est-à-dire que ce soit à la télé ou au cinéma, en particulier au cinéma, mais ça remonte à plus loin, dans les années 40, dans les années 50, c'est-à-dire se forger certaines légendes comme ça, des trucs qui vont durer, des trucs qui vont forger un petit peu l'histoire des États-Unis, parce qu'à part ça, ils n'ont pas grand-chose, sinon des fights avec d'autres pays et des luttes pour le pouvoir économique. Donc pour se redorer un petit peu le blason et se raconter un petit peu de belles histoires, bah ça leur permet justement de cette façon de le faire. Et là, bah c'est ce qui se passe encore en ce moment de toute façon. Hein. Mm. Il y a pas de problème quoi, quelles que soient les séries. Alors tu parlais des pompiers avant, bah il y a une série qui a quand même pas mal marché. C'est Rescue Me quoi, qui a quand même bah le temps qu'elle a tenu, a fait des scores tout à fait honorables, qui parlait justement de la vie des pompiers. D'après le 11 septembre, il y a une autre série, New York 911, tu l'as cité.
Mmh, qui existait avant. Hein,
oui, qui existait déjà avant, mais qui, elle, a vraiment pris le train en marche. Ça, il n'y a pas de problème. Bah, c'est normal, hein, puisque bon, on était plongé dans le quotidien, entre guillemets, d'une équipe de pompiers, d'une équipe de flics. Donc, bon, bah, ok, hein, c'est-à-dire les gens qui répondent au service d'urgence, au numéro 911. Aux États-Unis, quoi. Donc, soit les flics, soit les pompiers, quoi. Donc, il y a pas de problème. Mais de toute façon, bon, ok, hein, ça fait partie de l'historique et l'historique est bien sublimé de toute façon par les scénaristes au général.
Et moi, d'ailleurs, tu parlais de Gibbs tout à l'heure, qui parlait
oui, ça, c'était
de Guantanamo dans la d'un camp de vacances.
Mais moi, c'est vrai que la première saison était franchement assez irritante. Hein.
Mais moi, je me souviens d'un épisode où il y a Gibbs qui est amnésique parce qu'il s'est pris une explosion dans la tête l'épisode d'avant, c'est un double épisode, et justement après, au fur et à mesure qu'il retrouve la mémoire, à un moment donné, il va mieux, il va dans la cour de l'hôpital avec son mentor et tout, il commence à manger un hamburger, ouais, c'est bon, j'ai retrouvé la morale et tout, hamburger, ça, je sens que ça vient et tout. Puis l'autre, il lui explique, bon voilà, il y a eu en septembre et tout. Puis Gibbs, super patriote, il en peut plus, il va vomir son hamburger dans la poubelle. Et justement, l'épisode se finit, justement, où Gibbs retrouve la mémoire, il est complètement dégoûté par son gouvernement, et l'épisode se finit sur le chef d'état-major et tout, qui prend la décision de couler un porte-avions, qui est, parce qu'il y a un terroriste dedans, et il sacrifie tous les passagers, tous les marines qu'il y a dedans, et il finit, espèce de salopard, il va suivre son mentor sur la côte d'Amérique du Sud dans un bateau tout moisi dans une cabane dans le sable.
Alors, est-ce que tu te souviens à peu près de la saison? Parce que ça, quand même, c'est vrai qu'il y a eu un revirement à partir de 2005.
C'est pas difficile à trouver puisque c'est le dernier épisode de la saison en question. Gibbs est laissé pour mort la première partie de ce double épisode et cet épisode il se casse. Et donc il est rappelé évidemment dans le premier épisode de la saison d'après. Donc, je crois que c'était il y a trop 2 ou 3 saisons. Mmh. Voilà.
Et continue.
Oui, vas-y.
Moi je me souviens quand même, surtout c'était ce qui était vraiment très marquant suite au 11 septembre, c'était les fameux bouquins sur les super-héros où on voyait un Spider-Man et un Superman sur les ruines en fait, donc qui était vraiment un bouquin d'hommage qui avait été publié, tous les fonds étaient allés justement aux pompiers. C'était justement de ce côté-là, toute la faune super-héroïque, je veux dire, hein, toute la mythologie d'Odyssey et de Marvel avait fait un hommage très appuyé là-dessus. Et c'était assez surprenant tout d'un coup, ce rapprochement du réel et du tragique par rapport justement à ces super-héros. Mais la bande dessinée permet quelque chose avec beaucoup moins de moyens, donc de travailler sur des thèmes beaucoup plus personnels. Il y a eu notamment l'auteur de Mouse qui vivait pas très loin en fait, hein, des tours jumelles, qui a fait un bouquin assez touchant sur les attentats du 11 septembre. J'ai oublié le nom.
L'ombre des tours mortes.
Bravo. J'ai pas songé en fait à en reparler, donc c'est pour ça que je l'ai pas noté. Mais d'un autre côté, on a l'impression que toute cette histoire, justement, est passée beaucoup plus vite dans le traitement des super-héros, dans le traitement de la BD mainstream, par rapport en fait aux séries télé ou même au cinéma.
Ouais, mais enfin bon, ce qu'on a remarqué, mais enfin bon, c'est vrai qu'ils ont été plus lents à l'allumage, hein, c'est que bon bah c'était pour les Américains un événement majeur parce que c'était bon, effectivement, on l'a dit, on l'a rabâché. La première fois que l'Amérique se fait attaquer sur son sol, donc là, bah ça changeait un petit peu la donne. Bon, la première fois que c'est vraiment, oui, Pearl Harbor, mais Pearl Harbor, c'était à Petahouchnock, quoi. Je veux dire, c'était pas forcément sur le continent américain. Là, c'est la première fois sur le continent même.
Et les attentats d'Oklahoma City aussi.
Oui, mais ça, c'était quand même
des attentats de moindre
sûreté intérieure, quoi. C'était un petit peu différent quand même.
C'était l'extrême droite. C'était voilà. Ce qu'on appelle les anti-washingtoniens, les anti-unionistes.
Voilà. Alors bon, mais ce qu'on a vu par la suite, quelques années par la suite, c'est on va pas dire un déferlement, mais pas mal de séries qui étaient basées, sur le fait que le héros ou les héros devaient se montrer rassurants par rapport à la population, par rapport à l'Amérique, montrer que tout fonctionnait bien, montrer que la police marchait bien, que les services de renseignement, le FBI pour la sécurité intérieure, la CIA pour la sécurité extérieure, l'armée, hein, à travers des séries comme NCIS par exemple, montre que ça fonctionne bien, que on est quand même en sécurité, que il y a bien sûr il y a eu un 11 septembre, mais qu'on fait tout pour que ça ne se reproduise pas et qu'on travaille pour le bien-être de tous. Et bon, c'est vrai que les ricains, au travers des séries, ont besoin d'être un petit peu rassurés. Alors donc, on va leur fournir des séries avec des flics qui résolvent des enquêtes, qui touchent de temps en temps au terrorisme. D'ailleurs, on remarque qu'il y a beaucoup de séries policières qui, des fois, mettent le pied dans le volet terrorisme, comme ça, ou sont confrontés à des personnages ou à des affaires qui mettent un petit peu le pied dans le terrorisme, donc dans la vision actuelle qu'ont les ricains de ce qui se passe de leur vie actuelle aux États-Unis. Donc c'est pas forcément un mal, hein, parce que on va dire ça rehausse le niveau quand même, parce que il y a une petite compétition qui se fait entre les différentes séries, entre les différents auteurs, les différentes chaînes également. Donc on en arrive des fois quand même à avoir des trucs d'assez haut niveau de toute façon.
Alors moi j'avais préparé un petit topo sur le cinéma hollywoodien post 11 septembre. Donc on peut noter quelques tendances. Alors moi je vais passer sous silence les films comme World Trade Center ou Road to Guantanamo qui sont des allusions directes, mais bon, que je n'ai pas vu donc je peux pas en parler. Alors en tout cas, on a pu assister à un retour des super-héros par rapport à ce que tu disais sur la vision rassurante des héros. Mais
ça a été initié surtout par le succès du premier X-Men 2000.
Oui, hein.
On avait déjà parlé de ce côté-là.
Ça a été tout de même favorisé par le contexte politique. Donc on a eu le plus flagrant, c'était Iron Man quand même qui vend des armes à ses futurs ennemis en Afghanistan. Donc ça a été assez l'un des plus clairs. Il y a eu le monde précipité dans le chaos dans les deux Batman de Nolan, puisque dans le premier il y a Ra's al Ghul qui lui dit de toute façon Gotham il faut qu'elle soit rayée de la carte parce qu'elle était bâtie sur des crimes, et Wayne qui lui dit ouais non ouais, c'est pas une raison, et dans le 2 bon évidemment Joker qui fait tout péter, et justement le Batman qui est le chevalier noir qui dans un pays meurtri et une société tellement rongée par la corruption et tout, il faut un chevalier noir, faut pas un chevalier blanc. Donc on voit des héros qui sont beaucoup plus sombres, même si c'est des super-héros à cap. On a Superman, évidemment on en avait parlé, qui était parti sur Krypton pendant les attentats, donc ça a permis de justifier le fait qu'il y ait eu les attentats et justifier son retour. Et on a aussi ce trailer qui est assez célèbre de Spider-Man, du premier Spider-Man de Sam Raimi, qui a été
remonté en catastrophe,
puisqu'on voyait Spider-Man tisser sa toile pour capturer un hélicoptère piloté par des méchants en s'aidant des deux tours. Ensuite on a le héros, nouvelle race de héros qui, ou alors des anciens héros, des héros auxquels on ne touchait pas, qui reviennent, mais ils doivent sérieusement chier pour triompher par rapport à avant où c'était allez c'est bon je te fais ça d'un coup de cuillère à peau. Donc des anciens qui reviennent marqués à jamais, donc leur état de vulnérabilité. On a John McClane, où on a un Bruce Willis complètement largué dans le Die Hard 4, qui doit affronter des cyberterroristes. Alors les moyens des méchants qui ont changé, puisque c'est l'informatique avec des virus. On a aussi la scène à la fin où il y a McClane qui est poursuivi par un avion militaire qui se trompe de cible, donc on voit aussi les grosses
allusions. L'ambiguïté, oui.
Voilà. Alors d'ailleurs avant on peut s'amuser, puisque dans le premier Die Hard ça c'était simple puisque les méchants ils parlaient allemand, on connaît tous que c'est des méchants. Dans le 4 où rendez-vous compte, il est obligé d'aller demander conseil à Kevin Smith pour aller neutraliser les méchants. Bon, ça l'empêche pas d'aller buter des chinoises dans un cage ascenseur en leur envoyant des hummers par-dessus, mais bon, ça c'est McClane. On a Jason Bourne qui est la version de James Bond mais plutôt plus transpirante et plus brutale on va dire, et qui est lui-même issu d'un programme de tueurs ricain, puisque donc il a été armé et donc c'est le tueur qui se retourne contre les Talbishman.
Oui, et c'est vraiment une opération noire, c'est-à-dire qu'on fait en sorte qu'on ne puisse vraiment pas c'est une opération que le CIA n'est absolument pas fier.
Ensuite 007, puisqu'il y a Bourne qui est arrivé, 007 il revient mais en version Bourne, c'est-à-dire c'est un Daniel Craig complètement rentre dedans.
Tu oublies une chose, c'est qu'il y a eu surtout avant le dernier avec Brosnan, où il est emprisonné dans les géoles nord-coréennes et où justement on fait une illusion sur ce qui s'est passé au début, comme quoi le monde a complètement changé, oui, qu'on n'est plus maintenant le James Bond flamboyant et tout ça. Non, non, le service secret, c'est vraiment autre chose.
Voilà, il y avait déjà eu un virage qui avait été amorcé avec le GoldenEye, puisque c'était la fin de la guerre froide, et d'ailleurs toujours réalisé par Martin Campbell, qui a lui aussi réalisé Casino Royale, donc le mec est habitué à relancer la franchise. Et on a évidemment le héros emblématique qui a berné le monde en faisant passer qui a dit que les Afghans c'était un peuple courageux qui luttait contre la vermine communiste, qui est John Rambo lui-même, qui dans le 4 il est désarmé proprement dit par rapport au conflit birman, et qui dit à la nana qui est complètement pacifiste, la blonde qui joue d'ailleurs Rita dans la série Dexter, et qui lui dit de toute façon si vous avez pas d'armes vous changerez rien, c'est pas l'humanitaire ça va un moment, donc il faut les armes. Voilà, on a même Rambo qui est là et qui est impuissant et qui finalement à la fin va buter tout le peuple, toute la junte birmane à lui tout seul. Bon, ensuite on a la recrudescence des films d'apocalypse, puisque l'apocalypse est une métaphore des exterminations de masse,
surtout sur New York, ou en ayant oublié les cyclones d'ailleurs.
Oui, ou post-apo, puisque c'est le mode de survie par excellence contre des ennemis qui sont notre propre congénère qui ont muté. Donc on a La Route, Je suis une légende, Livre d'Eli, 2012, La Guerre des mondes, qui est avec l'extermination de masse, qui est à peine voilée sur toutes les exterminations qui ont eu lieu. Cloverfield, Prédiction, 28 jours plus tard, 28 semaines plus tard. On a Terminator Renaissance, et même Wall-E. Même Pixar s'y est mis, le post-apo. Voilà, le post-apo, il le vend en poupe, il témoigne bien des mondes en pleine transition, où on sait pas trop où on va. Bon, évidemment, je passe aussi dans les Romero, bon, lui toujours là, inoxydable. Et on a aussi des films de guerre, ou comment traiter des conflits à hauteur d'homme, où la frontière entre gentil et méchant se trouble. On n'a plus des kobolds qui vont aller buter du gars qui vit avant les Américains. Donc on a Jared, on a le film des mineurs qui a été oscarisé, La Chute du Faucon Noir, puisqu'il faut pas oublier qu'il a été fait juste après le 11 septembre par Ridley Scott, où on voit les Américains qui sont englués dans le conflit en Somalie, à Mogadiscio. Alors Ridley Scott, c'est marrant parce que comme pour tempérer ça, son film suivant c'est justement Kingdom of Heaven, qui montre que finalement les croisés, ils étaient pires que les musulmans qu'ils étaient censés aller buter. Et alors voilà, donc on voit les deux facettes. Ridley Scott, il va falloir que je aussi les gens qui m'avaient quitté le Faucon Noir.
Il y a une écriture un petit peu plus critique du coup de l'histoire. On n'est plus à Vae Victis, quoi.
Voilà. Ensuite, on a le fameux Green Zone, puisque c'est carrément Paul Greengrass de Bourne qui se confronte au problème des armes de destruction massive qui étaient fictives avec son Matt Damon attitré, et qui avait justement avant fait un autre film qui prouve qu'il est vraiment passionné par le sujet, qui était Vol 93, qui était justement les passagers de l'avion qui s'étaient rebellés pour éviter que l'avion s'écrase sur la cible imaginée par les terroristes. Et puis on a Avatar, justement un conflit qui s'éternise contre une population locale dans un lieu prétendument hostile, mais là cette fois on est du côté des résistants. Voilà, donc
c'est un peu justement le même habillage que j'ai dit tout à l'heure, voilà, la saison 3
de
Battlestar Galactica, où effectivement là où on en dit sur l'écriture critique d'où vient le terrorisme et pourquoi on en vient à de telles extrémités, sur un usage absolument incroyable d'armes civiles, et prémices de la guerre civile.
Je suis tombé sur je te l'ai fait suivre d'ailleurs, un article assez rigolo, on peut rire aussi, s'appelle, c'est sur tranchedunet.com, où c'est un article qui disait Hollywood savait pour le 11 septembre, et on voit plein d'allusions au 9-11 qui étaient dans des films vraiment significatifs. On a Ennemi d'État, on a plein de films, on a les Gremlins, on a...
Oui, c'est que des films antérieurs, mais surtout la date est inscrite en gros, en large, en travers, dans le film phare, Matrix.
Oui, le 9-11 qui est dedans. Bon, évidemment, ils ont les gestionnaires du site ont un peu triché, puisqu'évidemment, par exemple, ils ont l'image arrêtée sur un des comptes. Ils ont pris évidemment le 9-11. Bon, après, c'est très marrant de voir ça.
C'est pour enfumer un peu tous les porteurs des théories du complot.
Oui, tout à fait.
Voilà. Je recommande d'ailleurs les sites sur les théories du complot. Chaque année, vous avez un reportage. Ça ne manque pas. Tous les ans, il y a un reportage qui donne un parbelle à la théorie du complot, qui n'a aucune aucune raison d'être. Et c'est arrivé à France 3 jeudi dernier, dans Soir 3, où en fait ils ont une journaliste à sous prétexte d'indépendance a donné à plus ou moins cautionné en fait certaines théories du complot, dont un type qui disait qu'il y avait des explosifs militaires et la structure du World Trade Center a été affaiblie. Et d'ailleurs on a fait exprès de faire exploser dans le Pentagone certaines bombes, etc. Le même expert qui dit soutient Mordicus qu'effectivement Jésus-Christ était aussi apparu en Amérique en 2000.
Ah.
Donc voilà, donc attention aussi de ce côté-là aux théories. On nous dit tout, on nous dit rien, on nous cache tout. C'est quand même un petit peu gros, hein. Faut quand même pas y aller de concert. Voilà, on est un petit peu débordé du coup, puisqu'il est 13h10 sur Radio FMR 89.1 MHz, et on a plein de dossiers derrière quand même assez lourds et conséquents, et on aurait pu faire la même conclusion, exactement la même, 10 ans auparavant. C'est juste pour prouver que, ben, quand même, il y a quand même une évolution, même si, voilà, on a quand même parlé pas mal d'œuvres qui ont été tournées avant, et qui prouvent que finalement c'est toujours quelque chose qui est ambiant. Mais de suite... On reste dans la perclusion, dans la détention, la séquestration, voire même la torture. Le cinéma vous est présenté en Dolby Stéréo Surround.
Une émission à écouter au casque, définitivement. Alors, aujourd'hui, on parle d'Almodovar, la piel qui habite, donc c'est la peau que j'habite. D'ailleurs, ils l'ont foutu en titre original, enfin, le titre en anglais, c'est The Skin I Live In, donc c'est totalement transposé. Alors, un film de...
Titre international.
Donc, de Pedro Almodovar avec Antonio Banderas, Elena Anaya et Marisa Paredes. Alors, Vera est une magnifique jeune femme vivant recluse dans une pièce de la maison à la campagne du docteur Robert Ledgard. Pas très espagnol comme... Elle sert de cobaye pour ses recherches sur une peau expérimentale capable de supporter les flammes. Veuve depuis que sa femme a brûlé dans un accident de voiture, Ledgard concentre tous ses espoirs sur Vera. La mère de Ledgard, Marilla, veille à ce que rien ne vienne troubler le secret qui habite cette mystérieuse occupante. Et des secrets, eh ben il y en a beaucoup. Voilà, alors on retrouve un Almodovar, pardon, fidèle à ses obsessions de toujours, même si cette fois-ci c'est un thriller plutôt froid, d'apparence bien sûr. Il explore à nouveau les thèmes de la domination, les troubles de l'identité sexuelle, le rapport à l'affiliation également. Alors c'est fortement chargé, évidemment, comme c'est du Almodovar, en érotisme latent. Et donc il y a plein de doubles jeux, des attirances troubles, des délires régressifs, et une dimension médicale aussi qui ne quitte plus le réalisateur depuis quelques films, puisque avec des, je crois que c'était dans tout sur ma mère, où c'était une nana qui était contaminée par le sida, donc on voyait déjà des docteurs, on en parlait avec elle, c'était une comateuse. Alors bon, voilà, c'est la dimension médicale, il est très accro en ce moment. Et donc on sait pas trop où va ce film, comment le qualifier, quel genre il aborde. Donc on a, est-ce que c'est un polar, est-ce que c'est de la SF, est-ce que c'est un thriller érotique, est-ce que c'est un drame? Ben on sait pas trop au début.
Il y a un marre des étiquettes aussi.
Ben surtout que le film au début, il y a pas d'intro, c'est-à-dire ça, on est précipité dans le vif du sujet avec cette nana dans une pièce qui a une espèce de combinaison couleur chair. Alors tu sais pas trop si c'est un robot qui est complètement cheap, ou le talent d'Almodovar arrive à te faire passer que c'est un robot mais sans les côtés cybernétiques et tout, ou si c'est autre chose. Bon, évidemment il s'agira d'autre chose, mais tu as un doute.
Après, tu vois que Banderas, il essaie de faire des expérimentations sur une peau. Alors, est-ce que tu sais... Alors, tu sais pas trop parce que il y a des, ça s'entremêle des espèces de faux flashbacks qui en sont, mais qui sont pas vraiment. On voit que, bon, Banderas, il est complètement trouble. On sait pas trop qui est ce type. La nana, on voit qu'elle fait une tentative de suicide, mais c'est plutôt un appel au secours. C'est pas vraiment, c'est une tentative plus que ratée. Alors, on sait pas trop si elle essaie de fuir Banderas, si elle essaie de l'attirer à elle. On sait pas trop. Franchement, au départ, il y a pas d'intro, il y a pas de présentation de personnage. T'es propulsé dans cet univers complètement glauque, sans avertissement, sans rien. Tu te dis bon, d'accord, le Pedro là, il se renouvelle un peu. Tu sais pas trop. Et puis après, tu commences à comprendre quelques trucs. T'as un gars en sortie d'on ne sait où. En plus, la mise en scène nous coupe volontairement de tout l'univers extérieur. On sait pas trop ce qui se passe à côté. On voit qu'il y a un mec qui est déguisé en tigre, qui est costaud, qui est chauve et qui a échappé du carnaval, qui arrive et qui tombe amoureux de la nana qui est dans la pièce fermée à clé. Alors qu'est-ce qui va se passer là? Il commence à ligoter ça. On s'apprend que c'est le fils de la nana, donc il commence à ligoter la nana. Bon, alors tu te dis tiens, ça va être un huis clos avec des personnages ligotés. Bon, eh ben en fait non. Et puis arrive la moitié du film et là tu as un retournement mais dantesco, génialissimo, qui te retourne le cul en fait, et tu dis ah, et c'est un énorme flashback, et tu te rends compte que ben certains personnages, ben ah d'accord, et puis alors quand t'arrives le flashback, tu te dis mais bon, ouais, un flashback, bon, le film est arabiscoté à la base, alors bon allez, il te raconte alors 3 ans avant, je veux bien. Et puis, les 3 ans avant, mais quel rapport avec la choucroute, tu vois, bon, c'est, tu vas dans le passé de Banderas et tout. Et puis après, tu dis, mais non! Et quand tu vois la correspondance entre les deux époques, tu dis, mais non! C'est pas possible! Et là, eh ben, le film prend une autre tournure. Et là, on est vraiment dans du Almodovar à 150%. Et là, tu vois, tu comprends tout depuis le début. Et là, tu te dis, ah, oh, putain, faut que je le voie une deuxième fois. Et tu vois que le mélange des genres, finalement, c'était ça. Que le film traite de ça, que ben voilà, que le il y a plusieurs films en un et finalement ça fait un total qui est totalement homogène, qui s'explique, qui se tient, et c'est un film qui glace, qui te retourne un petit peu, et quand tu finis le film, tu ouais, c'est du costaud, c'est brillant, c'est bien mis en scène, c'est ouais, c'est du nickel quoi. Bon, voilà. Évidemment, c'est le film par excellence où il faut pas trop en dire. Donc La Pierrette et Habito, je vous déconseille de regarder quoi que ce soit sur le net qui parle de ce film, parce que je me suis fait spoiler. J'ai regardé en diagonale toutes les critiques, tu sais, les presses sur Allociné et tout, et puis évidemment je suis tombé sur The Article qui allait plus loin que les autres. Ah oh, putain, et voilà. Donc voilà, donc La Pierrette et Habito, qui est un excellent Almodovar, on va dire plutôt dans sa phase thriller, plutôt film un peu débridé, mais pas à la veine, on va dire, qui t'arrache les larmes comme les derniers films qu'il avait fait, qui est un peu larmoyant. Là, on voit vraiment plutôt dans le polar, vraiment sympa. Le film donc réalisé par Almodovar, La Pierrette et Habito, avec un Antonio Banderas qui revient à ses racines, qui revient avec son réalisateur fétiche qu'il avait fait débuter au départ, loin de Zorro, loin des films avec des flingues et tout. Voilà, il est très 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 bon, un acteur vraiment glacial, un personnage très très froid, et son visage, maintenant qu'il commence à avoir de l'âge, est un peu buriné, un peu, on voit qu'il a vécu pas mal de trucs, on voit que le regard de Banderas, il est intact. Elena Anaya, magnifique, mais qu'on avait déjà vu dans Parle avec elle, la nana qui était complètement à poil tout le film, et qui était dans le coma, c'était elle. Voilà, et Marisa Paredes, bon ben toujours voilà, sublime et puis exceptionnel, voilà. Donc trio d'acteurs vraiment super, La Pierrette et Habito, que ben voilà, qui est vraiment un très bon film. Et donc une très bonne transition, puisque les deux films ne pouvaient être chroniqués séparément, donc cette fois-ci on change de genre. Ça fait partie des Asiates de l'été, et donc on est dans la séquestration, on est dans la torture, et on est vraiment dans ce climat d'apocalypse et de tension. Voilà, évidemment c'est un film sud-coréen, et évidemment, et donc je vais parler aujourd'hui de J'ai rencontré le diable, un film de Kim Ji-woon avec Lee Byung-hun et Choi Min-sik. Alors, So-yoon est un agent des services secrets dont la petite amie est sauvagement torturée, assassinée et découpée par un tueur en série. Voilà, oh, du coréen.
Okay.
Très vite, il démasque le tueur en pleine récidive. Mais au lieu de le livrer aux autorités ou le supprimer, il s'acharne sur lui avant de le remettre en liberté. S'ensuit un jeu du chat et la souris où So-yoon prend un malin plaisir à balader le psychopathe. Mais contre toute attente, la proie se révèle beaucoup plus coriace que prévu et se prend au jeu. Alors qui manipule l'autre, tandis que les victimes collatérales s'accumulent et que les autorités commencent à s'en mêler, rien ne peut faire dévier So-yoon pris dans un engrenage autodestructeur. On voit le truc lourd et le truc bien noir où tu sens comme tous les thrillers sud-coréens que j'ai déjà chroniqué que la police ne sert à rien, que les victimes collatérales, les belles jeunes filles sud-coréennes que tu devines aussi chanteuses pop à leurs heures perdues vont tous se faire trucider dans le massacre le plus sauvage et absolu et que le criminel, si on a le bonheur de le voir attraper, ce qui n'est pas, surtout pas dit au début, en tout cas le film... n'en prend pas le pli du tout, on sent qu'il va faire chier beaucoup de gens avant de rendre l'âme. Alors déjà, le réalisateur, c'était celui qui avait fait Bitter Sweet Life, qui était un excellent thriller esthétisant, avec son acteur fétiche, qui joue d'ailleurs le héros de Je rencontrais le diable, Kim Ji-woon. Il avait fait Deux Sœurs aussi, le thriller angoissant, et aussi Le Bon, la Brute et le Cinglé, c'est la farce western hommage qu'il avait faite aussi. Et donc il prouve avec ce nouveau film qu'il peut aussi se coltiner au genre très exporté du film sud-coréen qui est la chasse ultra-violente. Et alors évidemment j'avais déjà chroniqué ici The Chaser, No Mercy, Memories of Murder, Mother, que des films vraiment où en fait c'est un enquêteur plus ou moins officiel hein, qui va se coltiner un tueur et puis on sent que soit c'est un ancien flic qui a aucune crédibilité, ou il est complètement abandonné par les forces de l'ordre. En fait, on voit que c'est juste un pauvre gars qui va mettre les pieds dans un truc qui est vraiment beaucoup trop noir pour lui, où il a intérêt à avoir des épaules super costauds. Et dans ce film, alors ce qu'il y a de surprenant, c'est que il faut pas trop en lire non plus. C'est ce genre, comme l'appelle Kihabito, faut vraiment se tenir à l'écart de tout résumé. Et tu te dis la chasse de l'enquêteur, du membre des services secrets, il va prendre évidemment un congé à un moment donné pour aller s'occuper de cette affaire, et il démasque le tueur très très vite. Alors tu te dis, mais il n'y a plus de film, c'est quoi ce truc il se te confronte au tueur en série, tu te dis le tueur en série va s'échapper forcément, puisque sinon il n'y a pas de film. Mais en fait non, puisque le mec c'est un agent des services secrets, il est juste infaillible en combat au corps à corps, il lui met une dérouillée, puis... le film est fini, 10 minutes, c'est quoi ce truc? Et puis, il s'acharne, forcément, puisqu'il a buté sa petite amie, forcément, c'est logique. Il s'acharne, ouais, il va quand même assez sec, hein, le mec, il lui dérouille un petit peu. Mais, et puis il le lâche, et puis, il donne une liasse de billets. Bon. Et tu dis, il a fait une machination, il a fait un énorme piège. Alors, le tueur, il commence à prendre un taxi pour s'échapper de là où il avait été torturé, et puis, il voit le chauffeur de taxi, il est bizarre déjà. Et puis il y a un autre gars qui était déjà un client du taxi qui est assis derrière et lui il prend place à côté du chauffeur de taxi. Et puis tu vois que le mec derrière, il a un couteau dans sa poche. Alors tu dis, ah, c'est un flic qui a été mis là par le héros. Non, il a pas une tranche de flic. Après tu te dis, c'est un tueur en série, que le héros savait qu'il était là, il met le tueur dans le... Et en fait non, parce que le tueur il s'en sort et puis il s'en sort de manière assez kijique en fait. Mais tu te dis, il commence à y avoir un os dans le plan du héros. Et là, tu vois le héros qui commence à voir les cadavres, hein, puisque forcément tu vois. Et puis il a pas un rictus. Et là tu te dis, le héros il commence à faire une mauvaise coton, parce que s'il a pas de réaction par rapport à ça et qu'il reste froid, c'est pas possible. Et là le film prend une tournure, tu te dis, ouf, ça fait froid dans le dos, le héros c'est pas vraiment un héros, est-ce que tu as vraiment raison de cautionner sa quête? Et puis plusieurs fois il remet la main sur le tueur. Et il s'acharne encore plus, et puis non, c'est pas possible, là il a bien amoché, il tire une bastos, et puis voilà. Avec ce qu'il lui a fait, l'autre il peut pas s'en tirer, il peut pas continuer, non, si, et puis plein de fois, le film pourrait se terminer, parce qu'avec une conclusion et tout, et puis, épilogue. L'épilogue il continue, il s'éternise un petit peu, et puis à chaque fois il y a un retournement, et puis le tueur en série, on lui met des cartes dans ses mains qu'il aurait pas dû avoir du tout, et dit et là tu te dis non, c'est pas possible, et là le film repart, et tu regardes le compteur du film, tu sais, quand tu regardes les films et tu vois que c'est en est à la moitié. Ouais, j'étais pas du tout prêt à ce genre de truc, et là ça atteint un glock ici, mais pas possible. Tu vois que le tueur en série, il connaît des gens qui sont aussi frappadins que lui, mais en pire, en d'autres univers, c'est n'importe quoi. T'as le héros, même si tu vois que c'est un membre des services secrets, tu te dis non, c'est pas possible, il va pas pouvoir distinguer toute cette affaire avec cette espèce de faune qui est complètement débile et complètement qui sont des prédateurs en fait. Et voilà, et puis à un moment donné voilà, le film part sur autre chose, et puis tu vois que de toute façon ça pouvait que se terminer comme ça, et t'as l'impression encore une fois d'échapper à un film qui te laisse bon, tu passes forcément, je l'ai vu avant de me coucher, donc tu passes forcément une mauvaise nuit avant de t'endormir, tu rumines et puis tu te dis oh là là, mais oui quand même, c'était noir ça quand même, ah non, c'est pas cool pour le personnage là, et puis le lendemain tu repenses, et puis évidemment c'est la marque des bons films, des bons thrillers, des bons polars qui te poursuivent après, un peu après, et là quand je vous en parle j'ai encore des images du film qui me viennent, et si vous aimez les polars vraiment, mais torturés à mort, c'est le cas de le dire d'ailleurs, des films qui te remuent, des trucs, des refus systématiques du film qui, tu es hollywoodien bien léché avec la caméra ascendante à la fin où il laisse le héros qui a fini son truc qui est, eh ben non, c'est faut pas aller là. Mais par contre, si tu aimes les polars qui te remuent l'estomac, il faut y aller. J'ai rencontré le diable, qui est encore dans certaines salles, il n'est plus à Toulouse, mais il est encore dans certaines salles en France, il devrait être disponible en DVD dans quelques jours, dans quelques semaines. Vraiment du corset, du noir de chez noir, vous le regardez tout seul, parce que c'est impossible que vous le regardiez avec votre copine, ou alors les copines elles sont dans vos univers, mais j'ai un doute. Bon voilà, ça vous remue. J'ai rencontré le diable, avec le meilleur acteur du monde, Sean Min-sik, qui joue le tueur en série, qui était le héros de Oldboy. Genre ce gars-là, mais c'est pas possible. Il faut qu'il ait un Oscar, il faut qu'il ait toutes les récompenses du monde. C'est pas possible. Déjà le héros, c'est vraiment du costaud. Lee Byung-hun, l'acteur fétiche du réalisateur, il donne vraiment de la consistance à un personnage qui avait tout pour être en dedans, qui avait tout pour être le gendre idéal et tout. Il est d'ailleurs le gendre idéal au départ, et il souffre vraiment pas de la comparaison avec Sean Min-sik. Mais Sean Min-sik, c'est Sean Min-sik, et ce tueur, tu le détestes, mais tu prends sympathie pour lui, et c'est détestable comme sentiment, parce que rien, toute la logique ne peut pas te pousser à aller dans son sillon, mais t'y vas. Et c'est ça, c'est un film qui te pousse à aller dans ce que tu veux pas aller, et t'y vas quand même. Donc voilà, J'ai rencontré le diable, film implacable, et voilà, qui fera encore une date au jeu cette année, dans le milieu du polar.
Vous verriez le regard noir de du sport, du style. Il me reste moins de 3 minutes alors que j'ai eu un mondial de rugby sur le feu.
Ouais, on va un petit peu dérider le.
Ah ouais, parce que le programme était assez noir.
Ouais, il faut le dire. Ah ben c'est normal, hein, commémoration oblige.
Ouais.
Qu'est-ce que tu crois? Et on continue avec The Killing, la saison 2.
Ah oui, non, fort, putain.
Diffusée sur Arte, bah ouais, hein, comme d'habitude, j'allais dire. Et ça passe donc le mardi à partir de 22h25. Vous avez loupé les deux premiers épisodes. Là aussi, ça commence bien, là, avec une histoire de cadavre. Enfin, il y en a déjà deux.
Ouais, mais on s'en fout, sur Arte, ça sera jamais en VO, donc.
Ouais, mais enfin bon, tu sais, le danois, c'est pas forcément une bonne chose. Si tu veux mon avis personnel. D'accord? Donc, c'est la saison 2, ça passe à partir de mardi, mais enfin bon, de toute façon, comme il y a un previously, quoi, avant chaque épisode, il n'y a pas de problème. Vous en sortez quand même. Et bon bah ok, il n'y a plus que Sophie Grabol en fait, hein, de la première saison, c'est-à-dire l'inspectrice Lund, je me rappelle pas, là, sinon tous les autres, hein, Lars Mikkelsen, le frangin de Mats, il n'y est plus, bon bah c'est normal, mais par contre...
Et pourquoi il n'y est plus?
Parce que...
on peut pas le dire.
Non, si on peut, enfin on peut le dire... Non, c'est parce que bon, bah, c'est une toute nouvelle histoire, hein, qui se développe. Il ne reste que de la saison précédente. Bah, le patron qu'on voit arriver dans la deuxième partie de la saison 1, le patron de l'équipe d'enquêteurs criminels, là, le mec qui est grand, vachement vachement pète sec et tout, qui a la voix de François Desroses d'ailleurs en François, en français.
François.
Ou la fatigue.
Là, il y a également une autre histoire politique qui a l'air de vouloir se dessiner, bien sûr, mais c'est un autre échelon. Avant, il s'agissait de la mairie de Copenhague, et Copenhague, là, on est plutôt dans les Marocains ministériels, si tu vois ce que je veux dire. Donc,
comment faire un spin-off d'une série à l'intérieur de la série?
Ouais, non, mais c'est pas mal, ça peut le faire, hein, c'est pas mal, quoi. Il y a également Castle qui a repris depuis, ouais. Bah, ça t'en sais quelque chose, hein, Xavier, n'est-ce pas? La saison 3, donc c'est lundi à partir de 20h35 pour deux épisodes inédits. Il y a également jeudi prochain sur Canal+, une série version US d'une série anglaise qui démarre jeudi prochain à 22h15 sur Canal, Shameless. Je sais pas si vous connaissez cette série. Le quotidien, hein.
Ça me dit vaguement quelque chose.
Ouais, c'est le quotidien d'une bande de, enfin d'une famille plus ou moins recomposée.
Ah oui, oui, oui. Père. C'est des mecs qui en ont strictement rien à foutre. Voilà, c'est ça. Genre la communauté, je lui pisse à l'arrêt.
Voilà, ils sont à l'écart de la société parce que bon, personne ne travaille.
C'est vraiment white trash.
Ouais. Et tout. Ouais, c'est vraiment white trash. Et donc là, c'est la version américaine. Alors la version anglaise a été créée par Paul Abbott. Elle en est quand même déjà à sa 8e saison. Donc ça veut dire que ça tient le choc. Et donc cette version US toute nouvelle a été adaptée par John Wells. Ah bah ouais, hein, le mec qui nous a fait ER, qui nous a fait 911, qui nous a fait Left Wing, des petits trucs comme ça. Et avec dans le rôle principal, c'est-à-dire le mec qui est vraiment trash, William H. Macy.
Oh.
Et là, bon, paraît que c'est pas mal du tout. Emily Rossum également au programme, donc au casting de cette série américaine Shameless, adaptation de la série britannique. C'est sur Canal+, jeudi prochain à 22h15. Trem également, la saison 2 démarre sur Orange Ciné Nouveau, c'est ce soir à partir de 20h40, hein, le quotidien des habitants de la Nouvelle-Orléans, 2 ans après Katrina. Et ce soir également, TF1 à partir de 23h10. Eh bien, ce n'est pas New York, section criminelle, c'est New York 11 septembre, 10 ans après.
C'est fiction ou c'est docu?
Non, docu.
D'accord.
Docu complet. Sinon, demain, il y a également, bah, c'est le 11 septembre, donc forcément, il va y avoir pas mal d'émissions.
Ouais, à noter que sur TCM, hier soir, il y avait une thématique spéciale New York et l'amour, puisqu'il y avait Hold Up à New York, il y avait La Belle de New York.
Oui.
C'était vraiment intéressant, avec un montage, du coup, ils ont fait un babillard. C'est-à-dire une bande-annonce longue, hein, sur le thème de 2 minutes où en fait tu voyais en fait chaque quartier de New York et les films qui s'y rapportaient. C'était pas mal du tout.
Ah, c'est sympa,
c'est bien amené, bien monté. Enfin voilà, c'est TCM, donc ils ont vraiment des monteurs de fou de ce côté-là.
Pas mal.
Vraiment bien. Donc ça change un peu du côté larmoyant, quoi, je veux dire, hein, parce que c'est vrai qu'on a.
Ah bah on va en avoir.
On va en avoir.
Demain, alors sur France 2 à 22h45. Alors, ce qui est aussi assez marrant, c'est que bon, il y a très peu de programmes qui concernent donc le 11 septembre, mais qui vont avoir lieu, qui vont être diffusés en prime time, voire dans l'après-midi. C'est plutôt les deuxième partie, voire troisième partie de soirée qui sont privilégiées pour ce genre de truc.
Ouais,
alors,
plutôt. Ouais.
Donc 22h45 sur France 2 demain soir, 11 septembre, dans les Tours jumelles de Richard Dell, un documentaire qui date quand même de 2006. Et qui est une reconstitution pratiquement minute par minute d'après différents témoignages. Ensuite sur M6 demain toujours à 22h45 un film qui nous vient de l'événement, le vol 93 que tu n'as pas cité, de Paul Greengrass.
Si, tout à l'heure, oui.
Ah si oui, tu
t'es parti téléphoner.
Voilà, donc avec Christian Clemenson, Trishgate et Polly Adams sur Arte. Alors c'est carrément, c'est pas un spécial en septembre, mais c'est un spécial New York demain. New York Forever, c'est ça le thème, et ça commence demain à partir de 9h du matin. Mais par contre, ça va être diffusion de documentaires. Tout d'abord, de 9h30 à 14h05, ça peut être vachement intéressant. Mais par contre, roboratif, parce que bon, va se falloir se taper le documentaire en 5 parties, hein, ouais. Donc de 9h30 jusqu'à 2h de l'après-midi. L'histoire de New York, donc à vos enregistreurs.
Ça va y aller, ouais.
Ensuite, de 14h05 à 17h50, pareil, un autre documentaire concernant les quartiers du centre, c'est-à-dire Manhattan, vous les avez là, d'ailleurs. Là,
ah oui, c'est la
Brooklyn,
ligne...
Le Queens et le Bronx.
Voilà, d'accord, la ligne numéro 5.
Voilà. Ensuite, à 20h45, Le Bûcher des Vanités, le bouquin de Tom Wolfe, oui, et le film de Brian De Palma. Ensuite, à 0h20, Le Mec dont tu cherchais le nom avant, c'est un documentaire de 50 minutes, Art Spiegelman.
Oui, pardon.
Qui nous parle justement des...
Il avait oublié le nom.
Oh putain.
Alors quand même, ce type a eu le...
Alors Art Spiegelman, pour vous dire,
en plus, ce n'est que la bande dessinée.
C'est le mec qui a fait
ça.
Mouse.
Voilà. Donc, ça je l'avais dit. Il a eu. C'est le premier auteur de bande dessinée à avoir eu le prix tant convoité pour les journalismes. Et d'ailleurs, son bouquin est rentré dans le patrimoine de l'humanité, si je me trompe. C'est-à-dire que c'est considéré comme une œuvre remarquable par l'UNESCO. On est en pleine séance de shoot, à vrai dire, parce qu'on va vous montrer vraiment, parce qu'il y en a qui ne sont pas abonnés à notre service télévision, alors pour voir le t-shirt de Duce.
Ouais, alors on est demain soir sur Arte, après Le Bûcher des Vanités, donc on a à 22h15 Kings and Queens of New York, donc ensuite Art Spiegelman, c'est à 0h20, et à 1h encore un documentaire inédit, New York Minute. Ça continue toujours dimanche sur Direct 8. Alors là, c'est pareil, c'est le marathon. La minute de vérité à 13h10 demain, avec différents documentaires. Tout d'abord, crash dans le Queens, attentat à Oklahoma City. Ensuite, le 11 septembre. Ensuite, l'attentat du Pentagone. Ensuite, piégé dans les Twin Towers, un documentaire jusqu'à 17h50. Et à 17h50, alors c'est assez bizarre parce qu'ils ont passé le premier épisode avant. Et vous avez les autres épisodes du 11 septembre, un documentaire en 4 parties, jusqu'en début de soirée. Sur Ciné Plus Premier, World Trade Center, demain, de Oliver Stone, avec Nick Cage et Maria Bello. Lundi, sur NT1, Trax sans merci, Steven Seagal en policier, avec Chris Thomas King. Sur Energy 12.
Ah, en fait, en parlant de, est-ce que tu es au courant de Steven Seagal qui
s'est il voulait s'attaquer à quelqu'un qu'il soupçonnait, je crois, d'organiser
de faire la torture d'animaux.
Ouais, des combats de coqs, voilà. Et du coup, et il a débarqué avec un tank.
Il a défoncé sa grange avec un tank, sauf qu'il a écrasé plein d'animaux avec son tank.
Oh, le
400 poulets, un chiot, et du coup, il est poursuivi avec le shérif du comté qui est considéré comme pas un tendre, et du coup, là, ils sont vraiment poursuivis. Parce que en plus c'est passé à la télé.
Bah oui, c'était pour son émission.
Voilà, pour sa télé-réalité. Excellent. Et là-dessus, la PETA a évidemment pété un câble auprès de la FCC, c'est-à-dire l'équivalent du CSA aux États-Unis.
D'ailleurs.
Là, à mon avis, je crois que le shérif, il va avoir très chaud au cul.
Et le Dalai Lama s'est porté partie civile dans cette affaire.
Non, ça c'est une blague.
Track sans merci, donc et sur Energy 12 au même moment à 20h35, Ultime Vengeance de Michael Oblowitz avec Steven Seagal en archéologue, avec Corey Johnson. Ils ont pas pu avoir Michel Yeo, alors ils ont pris Michel Go et Tom Yu. Suivi à 22h20 du Piège en eau profonde, qui n'est pas de la suite de Piège en haute mer, bien sûr, de Anthony Hickok avec Steven Seagal en mercenaire, ainsi que Christine Adams, William Hopp et Vinnie Jones. Quand il y a un film à Vinnie Jones, il n'y a pas de problème, faut quand même regarder, jeter un coup d'œil. Sur TF6, c'est spécial requin avec Malibu Shark Attack, tout d'abord de David Lister, les requins préhistoriques qui sont animés par un tsunami, ça vous savez. Ensuite, c'est le Raging Charts de Danny Lerner avec Corinne Nemetch, où là, c'est carrément les zombies qui tombent sur le triangle des Bermudes et qui réveillent des requins, donc il va falloir surveiller leur comportement. Par ailleurs, très bizarre.
Tu sais pourquoi ça s'appelle le triangle des Bermudes?
Non.
Parce qu'il y a 4000 ans, une île a disparu et c'est devenu d'un rectangle à Bermudes à un triangle.
Ah, d'accord.
Ouais. Non, pardon, désolé, je sors.
Ok. Mardi, sur 13ème rue, eh bien, celui-là, ça fait pas trop souvent qu'on le voit, hein. Il est assez récent d'ailleurs, de 2009. Et, c'est pareil, hein. C'est également les héros qui vont sauver l'Amérique. Commando de l'ombre avec Mark Dacascos, Bruce Boxleitner et Armand Asante. Ça dépote quand même. Et sinon, sur Ciné, c'est plus classique à 20h40. Bah là, je parlais avant de la, de fabriquer les légendes et tout ça, quoi, de l'histoire, et de fabriquer l'histoire d'un pays, tout simplement. Là, c'est on est en plein dedans avec Une Nation en Marche sur Ciné Plus Classique. C'est l'histoire de la Wells Fargo, en plus, avec Joel McCrea, Frances D, Bob Burns, Henry O'Neill, un film de Frank Lloyd en 1937, né à Glasgow, il est très vite parti aux États-Unis et nous a fait quand même les Mutiny of the Bounty avec Charles Lofton dans le rôle de Bligh, là, excellent. Bon, bah, tout le monde se souvient de ce film pratiquement. Il a son dernier film en 1955, The Last Command, quand le clairon sonnera. Ouais, l'histoire de David Crockett enfermé dans Los Alamos. Non, pas Los Alamos, à Alamo, bien sûr. Mercredi, pas trop grand chose, sinon un film assez intéressant sur Ciné Plus Classique, Le Cambrioleur de Paul Venkos en 57, dont l'adaptation est de David Goodis au cinéma, de son propre bouquin avec Jane Mansfield, Dan Duria et Martha Vickers. Sinon jeudi sur France 2, Infrarouge vous propose bien entendu deux documentaires, le premier à 22h35 dans la tête d'Al-Qaïda et le deuxième à 23h50 dans le piège de Guantanamo. Paris Première vous fait une super soirée western avec deux super westerns, ça j'ose le dire. D'abord La Rivière Rouge de Howard Hawks et ensuite La Fureur des Hommes de Henry Hathaway.
Sur on n'a pas vu depuis un bail en plus, ouais. Voilà, donc faut en profiter.
Sur 13ème rue jeudi prochain, Échec et mort de Bruce Malmuth, ouais ça c'est du lourd, avec Steven Seagal dans ce qu'il est le mieux, c'est-à-dire un flic, bien sûr. Et ensuite Justice Sauvage, tournée l'année suivante de John Ford. Où il est également un flic, bien sûr, avec William Forsythe et Jerry Orbach. Enfin, vendredi, sur Syfy, Starship Troopers 2.
Ouais,
ça faisait longtemps. Ouais, sur Ciné Plus Frisson, Les Condamnés de Scott Wiper. Alors là, ça a rien à voir avec la série anglaise et les nanas en prison, non. Là, c'est avec Steve Austin, Vinnie Jones, Robert Mamone et Terry Musette. Et c'est un remake US de Battle Royale, donc ça peut dépoter.
Avec Vinnie Jones.
Avec Vinnie Jones, ouais.
Steve Austin, vu le scénario, c'est le truc fait par les acteurs troisième zone.
Quand même. Non,
Steve Austin, c'est un acteur. Non,
Scott Wiper,
Ah, d'accord, ouais. Ok.
Non. Bah oui, et puis dans d'autres d'ailleurs, il est dans les films de Guy Ritchie aussi, quoi, on le voit. Quoi.
Steve Austin, c'est un
ex-joueur de foot professionnel en fait.
D'accord, ok.
France 4, enfin pour terminer, jetez un coup d'œil, ça vaut le coup, c'est une série anglaise qui traite, alors on va dire, ouais, encore une merde, ça commence à faire toute cette série qui traite de vampires, de machins, de trucs comme ça, commence à y en avoir une tapée, pas forcément des bonnes non plus, hein, c'est-à-dire que le thème archi rebattu. C'est pas évident et là c'est un petit peu plus intéressant. Ça s'appelle Being Human et c'est une série anglaise qui traite du quotidien.
Qui est plutôt pas mal.
Ouais. Du quotidien de gens qui sont pas comme les autres, à savoir un vampire, un zombie et un loup-garou. Donc et qui font colocation en plus.
Ah excellent.
Alors voilà. À Londres t'es obligé en coloc. Hein.
Voilà donc c'est pas mal, c'est sympa. Je te dis un coup d'œil. Hein. France 4 a commencé à diffuser les épisodes de cette série anglaise, donc c'est vendredi prochain à partir de 22h15.
Ma foi, il est assez tardivement, on va dire.
Dépendamment d'un fort beau gabarit.
Oui, mais heureusement, Thomas, tu sais qu'il y en a qui sont occupés, galopés après un ballon ovale et qui n'ont pas pu suivre l'émission depuis le début, soit qui nous écoutent sur FM, soit sur le stream, voire qu'ils ont écouté en diagonale le podcast et qui se retrouvent benoîtement à la fin. Et ils auraient oublié des trucs.
Eh oui, tout à fait. Heureusement que nous sommes là pour vous rappeler tout ce qui vous avait manqué. C'est une émission spéciale 9/11 du papier graveleux, justifié chez les dinos, la zizanie chez les petits gars. On a envie de se taper rugulite. Xavier ne se souvient pas de ses précédentes émissions, de la tartine sur le 11 septembre, de la Movida version torturée, de la trip sud-coréenne, du Previously qui fait du bien, un blanc radio offert par un shooting photo, Steven Seagal qui défonce des poulets avec un tank avant de finir archéologue, et des requins mutants réveillés par des ovnis aux Bermudes.
Ma foi, Thomas, c'est un résumé absolument magnifique, là, je dois avouer. Non, mais il est complet, merci. Il est bien, merci. Il est pas ça. Il a rate, non, franchement, là, bravo. Ouais, non, ça, bravo, j'applaudis. Mais ça veut dire que vous avez peut-être manqué des trucs, là. Ce qui veut dire que vous pouvez quand même réécouter, et désormais en stéréo, l'intégralité de cette émission, mais aussi les précédentes, lire nos précédentes chroniques et plein d'autres choses. Et d'ailleurs, on arrive maintenant on a pratiquement publié l'intégralité sur supplementweekend.fr. Le site de l'émission, donc supplémentweekend.fr, sans accent ni tiret, supplémentweekend.fr, et vous aurez tout les nos chroniques et aussi les liens que l'on a cités à l'antenne, comme ça notamment donc le clip de Lolita HR et tout le reste. Vous écoutez Radio FMR sur 89.1 MHz. Nous sommes en direct et en alternance avec Booster FM et en continu sur www.radio-fmr.net. Dans le prochain épisode, famille recomposée.
Tu sais pas encore. Moi là c'est la fin de mes Asiates de l'été, donc ce sera plus des Asiates.
D'accord, ok.
Bon. Ce que je peux dire, après je sais pas.
Et comme du sport étant va bosser sur le PC, ok, donc je vais récupérer différemment l'émission, ça va être assez chaud je crois, l'after show. Rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même fréquence. Et si vous suivez la Coupe du Monde de rugby et que les commentaires de TF1 vous font pleurer, je vous recommande une fois de plus d'aller sur le site sportaz.fr. C'est les anciens de Radio Campus, on les a reçus sur FMR aussi puisqu'ils avaient fait plusieurs fois leur émission en collaboration sur nos deux antennes. Sportaz.fr, ça vaut vraiment le coup. Vous coupez le son du match de rugby ou de foot, voire même des fois de basket, et vous mettez le stream de Sportaz à la place. C'est du bonheur. Franchement, pour quelqu'un qui n'aime pas le sport, si vous recommande ça, c'est que ça doit être bon. Ciao, bye bye. Et de suite du sport.
Avec un plaquage de retard d'un fort beau gabarit.